Bonjour à toutes et à tous et merci Clotilde Saunier, Guillaume Gontard, Catherine Larère et Xavier Timbaud d'être avec nous. En préparant cette table ronde, je me suis interrogé sur l'actualité de la question qui nous réunit. Peut-on maintenir les niveaux de vie actuels et tenir compte des limites de la planète ? Et quel lien cette question avait avec l'actualité politique du moment et des prochaines heures. Et ce qui est frappant, même consternant, c'est à quel point cette question existentielle dont on va discuter pendant ces deux heures tous ensemble est complètement inexistante dans l'espace politique et médiatique aujourd'hui. Le débat actuel, on le connaît tous, hein, il est saturé par la question de la dette et du déficit budgétaire. La crise politique actuelle, elle se joue sur l'importance, sur le rythme, le partage de l'effort pour répondre à l'injonction de réduire notre déficit public, le ramener à 3% le plus vite possible. Alors c'est évidemment important, mais ce faisant, le débat il se focalise sur le cadre de la politique, sur le cadre et non sur le pourquoi de ce cadre, non sur sa finalité, sur son caractère adapté ou non à la réalité aujourd'hui, et notamment face à l'urgence climatique et écologique qui est actuelle. Cette question de la finalité, elle est parfaitement absente du débat politique aujourd'hui. Et quelle pourrait être la finalité de ce cadre de la politique publique, sinon préserver les conditions d'existence de notre planète, de notre pays, de nous-mêmes, à la fois dans le sens biophysique et dans un sens socio-économique. Si c'était ça la finalité de la politique publique, la question ce serait pas tant doit-on se serrer la ceinture pour atteindre nos objectifs de dette et rendre la dette soutenable. Elle serait surtout comment faire pour sortir de toute urgence des fossiles, stopper la dégradation de la biodiversité, des écosystèmes, etc., qui sont la base de notre existence et quelles conséquences sur nos modes de vie. Ce serait plutôt ça la question. Et donc c'est cette question du règlement de la dette écologique qui est évincé dans le débat politique, et donc c'est de cette question dont on va discuter avec vous quatre. Et en même temps, je dirais qu'il y a dans ce questionnement, il y a des similitudes avec la question de la dette aujourd'hui, parce que quand on parle de dette écologique ou qu'on parle de dette publique, qu'on parle de limites planétaires ou de limites budgétaires, du nécessaire ou du superflu, c'est toujours derrière la question du qui paye quoi, qui doit payer quoi, qui se pose entre riches et pauvres, entre générations présentes et futures. Voilà donc la question, comment essayer de connecter cette question à notre actualité. Et peut-être pour commencer avec une première question que je vous pose, Catherine Larère, puisque vous êtes philosophe. C'est à vous que j'ai envie de poser cette question qui ressemble un peu à une question de dissertation de philo. Peut-on ou non maintenir les niveaux de vie actuels et tenir compte des limites de la planète ? Mais je crains que, comme toute philosophe qui se respecte et à la lumière de votre critique de l'éco-catastrophisme, vous ne résistiez pas à l'envie de questionner la question.
Ben oui, c'est comme ça qu'on fait. Puis c'est peut-être pas toujours mal d'ailleurs. Enfin, je vais essayer de... Plus près, oui. C'est bon là ? Oui, donc je disais, oui, je ne vais pas hésiter à questionner la question. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à questionner les implicites, parce que je crois qu'Antoine vient bien le montrer de la façon dont elle est formulée, la question qui est peut-on maintenir les niveaux de vie et ou tout en respectant les limites planétaires. Le sens implicite, c'est non. C'est il va falloir se serrer la ceinture, donc on ne maintiendra pas les niveaux de vie. Donc on peut peut-être questionner ça. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le rapport entre niveau de vie et prise en considération des limites planétaires ? D'autant plus que si on entend là derrière... Bon, il va falloir se serrer, je garde ton image, hein. Il va falloir se serrer la ceinture si on veut respecter les limites planétaires. C'est penser, bon, en gros, les riches, les pauvres, et voir arriver, ce qui est une constatation pas fausse d'ailleurs, qu'on a l'air de faire payer beaucoup plus les pauvres que les riches. Et que, bon. Mais il faut aussi réfléchir, quel lien y a-t-il entre le niveau de vie et le respect des limites planétaires. Ce qu'on peut montrer, c'est suivant le niveau de vie, alors il va falloir se demander ce qu'on entend par mode de vie et c'est ça, par niveau de vie, et c'est là que j'y viens, suivant, peut-être pas le niveau de vie au sens de revenu, mais suivant le type de, aussi de revenu dont on dispose, on peut en fait, en étant pauvre, avoir des consommations forcées qui sont consommatrices en gaz à... Alors, les limites planétaires, rappelons-le aussi, vous en avez tous entendu parler, c'est pour ça que je ne suis pas trop revenu dessus, c'est pas uniquement le cycle du carbone, hein, c'est pas uniquement décarboner, mais bon, même en restant là, c'est le cycle de l'azote, enfin, il y a d'autres limites, mais suivant le niveau de vie dont on dispose, on peut, alors, finalement, augmenter au-delà même de ce qu'on gagne les consommations de gaz à effet de serre. Si, par exemple, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une voiture électrique, ben vous allez continuer à consommer de l'essence ou du diesel. Si vous avez un appartement ou une maison qui est une passoire thermique, ben vous allez consommer plus d'énergie pour chauffer que si vous aviez... Donc, il y a aussi un effet des niveaux de vie sur le type de consommation de gaz à effet de serre qu'on peut avoir. Et donc, déjà, la question est un peu plus complexe. Et quand on regarde, on s'interroge sur... On se rend compte que le niveau de vie, c'est pas simplement un revenu, c'est pas seulement avoir une place dans l'échelle des salaires, c'est aussi un mode de vie, une façon de vivre. C'est-à-dire tout un ensemble de pratiques quotidiennes, la façon de se déplacer, le genre de choses qu'on fait, mais c'est aussi tout un tas de normes. Hein. Les modes de vie, ça correspond à ce qu'on juge bien ou mal, ce qu'on espère ou non. Alors, c'est là que j'en viens au deuxième implicite de la façon dont la question est posée, limite planétaire. C'est une série de mesures, vous dites, sans prendre les 9 ou les 11 limites, on peut en rester au seul cycle du carbone, c'est quelque chose qui se mesure. Et niveau de vie, vous voyez qu'on traduit ça en revenu, et c'est aussi quelque chose qui se mesure hein, en revenu, en salaire, etc. Or, est-ce que, et c'est là que les économistes vont arriver, parce qu'ils ont des choses à dire. La question que je voudrais poser avant que les paroles d'experts puissent intervenir, c'est est-ce que la question telle qu'elle est posée et telle que j'ai essayé d'en faire apparaître l'implicite, est-ce qu'on peut y répondre uniquement avec de la quantification ? Alors, il y a une première chose, est-ce que c'est pour ça que j'ai dit attention. Le niveau de vie qui est en fait un mode de vie, ça fonctionne dans les deux sens, dans le rapport aux limites planétaires, c'est que on le sait, le revenu ne suffit pas à mesurer le type, disons, de comportement de consommation d'énergie qu'on peut avoir. Bon, d'abord parce que, alors quand on parle de différence de revenus, on parle d'inégalité, et que dans les inégalités, il n'y a pas seulement des inégalités de revenus, il y a surtout des inégalités de patrimoine. Donc si on en reste seul revenu, on n'a pas une idée, disons, de la répartition différenciée de l'effet des mesures qu'on prendra pour respecter les limites planétaires. Deuxièmement, c'est que, ben c'est ce que je disais en sur le à propos du mode de vie, c'est pas seulement que ne compte pas seulement les différences de revenus, mais aussi bon les questions de patrimoine, et que c'est ça qui fait les vraies différences, mais que aussi il n'y a pas, avec le même revenu, on n'a pas forcément les mêmes comportements, disons, écologiques, pour aller vite. On ne consomme pas la même quantité d'effets de serre, suivant qu'on est obligé de se servir d'une voiture ou pas, suivant qu'on a accès aux transports en commun ou pas, suivant, comme je disais, qu'on est obligé de dépenser beaucoup en chauffage, parce qu'on n'est pas isolé ou parce qu'on n'arrive pas à s'isoler thermiquement. Et donc, la conséquence, c'est que une simple comparaison, si on fait rentrer des calculs, une simple comparaison entre les revenus ne permettra pas de répondre à la question, hein, est-ce que ça va, comment ça va se répercuter sur les niveaux de vie, parce que c'est une répercussion aussi sur les modes de vie, et que c'est beaucoup plus... Alors, est-ce que c'est plus compliqué ou est-ce que c'est plus complexe? Ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut compliquer, c'est-à-dire on peut faire des calculs qui prennent en compte de multiples facteurs, avec des moyens de calcul pour ne pas faire un raisonnement linéaire. On peut aussi ne pas en rester à la seule quantification et essayer de voir que toutes ces questions ne peuvent pas se comprendre sans, je dirais, deux choses. D'une part, une dimension politique, hein, qui demande des appréciations politiques. Hein, je reviens au fait que, suivant que vous... disons, il y a des inégalités horizontales géographiques qui croisent les inégalités verticales de revenus. Suivant que vous avez besoin de transport pour aller à votre travail, bon, la révolte des Gilets jaunes nous a appris ça, suivant l'endroit où vous habitez, le type d'habitation, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes effets sur la situation climatique. Or, ça ne dépend pas uniquement des gens. Ça dépend d'un certain nombre de choix politiques qui permettent d'avoir accès aux transports en commun, qui permettent de changer les politiques de mobilité. Donc, un simple calcul économique qui ne prend pas en compte la dimension politique ne donnera pas des réponses vraiment importantes. Et alors, d'autant plus, je ne veux pas attaquer mes collègues économistes, hein, mais que...
oui, ça se dit.
Ils savent se défendre, je n'en doute pas une seconde. D'autant plus que, très souvent, la parole économique apparaît comme une parole d'expert. Hein. Si on dit, par exemple, si je dis, ah ben oui, se serrer la ceinture, tout retombe sur les plus pauvres qui se servent d'automobiles et qui de voitures et qui ont de l'essence ou de diesel, mais on taxe pas les kérosènes. Le kérosène, les économistes vont arriver et dire, oh, c'est pas si simple. Hein. Mais est-ce qu'ils vont donner les moyens de comprendre en quoi c'est plus complexe? Eh bien, ils vont plutôt donner des réponses très compliquées auxquelles on ne comprendra rien. Donc, ils vous diront, ben, simplement, nous, on sait. Je schématise un peu, mais ce n'est pas totalement fou. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut tenir compte du contexte politique. Je crois aussi qu'il faut être capable de poser la question des fins. Alors, je vais prendre quelque chose qui peut paraître à côté, mais qui va peut-être vous permettre de saisir le problème. Quand il y a eu la loi du plomb et que, sur les phytosanitaires, etc., et qu'on s'est mis à discuter, ce qui m'a frappé dans des discussions qu'il y avait, c'est qu'au lieu de dire « Ah ben, qu'est-ce que vous voulez, si on veut avoir un rendement de temps, il faut absolument utiliser des phytosanitaires, etc. », on a vu dans les débats apparaître la question de... Ben, au fond, pour les noisettes, par exemple, il fallait absolument un certain type de phytosanitaire pour les noisettes. Pourquoi vous les produisez, les noisettes? Pour les vendre à Nutella? Vous croyez que c'est vraiment intéressant de produire des noisettes pour vendre à un type de produit qui est dangereux pour la santé, nocif pour l'écologie. Donc je crois qu'il ne faut pas déconnecter le discours économique de la question des fins. Et ça sera mon dernier point, là, je suis en train de... Ça veut dire que c'est pas... Il faut qu'il y ait des débats et que dans ces débats, des gens qui ne sont pas des experts économistes puissent donner leur avis, qu'on se moque pas d'eux et qu'ils puissent se réapproprier ce discours économique. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe beaucoup. Bon, j'ai quand même fait pas mal de débats de ce genre avec bon, des publics plus ou moins éclairés, informés, etc. Mais il y a toujours un moment où quand la salle pose une question à la tribune et que la personne qui pose la question intervient en disant « Ah oui, mais ça c'est l'économie », c'est une façon de dire l'impuissance. C'est une façon de dire « on n'y peut rien, c'est comme ça hein. ». Bon, c'est pour ça que je vous donnais l'exemple des phytosanitaires pour avoir des rendements en noisettes suffisants. Bah, peut-être qu'on n'a pas besoin. Peut-être qu'on peut poser la question, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de noisettes? Quelles sont les fins hein? Et que ce qui me paraît important, j'ai rien contre les économistes une fois de plus. Et on en a besoin, je veux dire. Hein? Mais ce qui me paraît important, c'est que ce qui est dit n'apparaisse pas comme une introduction à l'impuissance, on n'y peut rien, c'est l'économie, on n'y peut rien, mais au contraire, comme une façon d'ouvrir à des choix et à des possibles. Voilà.
Bon, des choix et des possibles, mais quand même des limites de la planète. Bon, vous avez souligné les implicites de la question, rappeler que c'était pas simplement dans le quantitatif. Je pense qu'on y reviendra peut-être sur cette question
des limites. Je peux peut-être rajouter juste un mot.
Parce qu'elles existent ou pas.
Non, elles existent.
Ou alors est-ce qu'elles sont flexibles et
alors,
parce que la technologie permet de les
rajouter
pousser,
ça pour préciser mon propos. Ouais. Elles existent. Là encore, on est dans le mesurable. Mais qu'est-ce qu'on a? On a des chiffres globaux. Comment on va passer des chiffres globaux de restons au CO2 hein, sur la planète, comment on va passer à la distribution suivant les différents pays et ensuite suivant les gens, les personnes, les groupes. Est-ce que on va s'en tenir à l'idée que ça peut être réglé par le marché hein, par exemple sur les questions de climat en achetant des crédits carbone. La compensation qui se fait d'un pays à l'autre. Je lisais ce matin un article dans Le Monde qui expliquait que ce type de calcul surestime l'impact positif. Donc, c'est là que je disais, il faut pas simplement être dans le compliqué, il faut être dans le complexe. Il faut se dire que la façon dont à l'intérieur de chaque pays on prend en compte la contribution qu'on a au dépassement ou non des limites planétaires. Il faut des calculs, il faut des économistes, mais il faut qu'ils puissent se situer dans un contexte qui est à la fois politique et citoyen pour que on fasse apparaître des options.
Bon, alors on a écouté le philosophe. Maintenant, on va écouter le politique et plus précisément l'élu écologiste. Est-ce que Guillaume Gontard, il faut qu'on devienne amiche pour respecter les limites de la planète? Qu'est-ce que vous dites, vous, les Verts, à ce sujet? Et qu'est-ce que vous répondez à ces attaques dans un contexte de montée de l'écolo-bashing dont on a parlé à une précédente session? En pratique, vos propositions politiques, est-ce qu'elles, pour respecter les limites de la planète, est-ce qu'elles contraignent mon mode de vie ou est-ce qu'au contraire, elles l'améliorent?
Alors, vaste question. Peut-être d'abord replacer, parce que il y a quand même des chiffres, il y a quand même des choses qui sont quantifiées, et surtout, il y a des réalités. On a défini 9 limites planétaires qui permettent en fait le développement sûr de l'humanité si justement on les dépasse pas. Et aujourd'hui, on sait, on vient de dépasser la 7e limite planétaire, et en fait, les deux seules limites planétaires qui ne sont pas dépassées, hein, c'est la concentration d'aérosols, tout simplement parce qu'elle n'est pas mesurable, et puis la couche d'ozone stratosphérique. Mais toutes les autres, les 7 autres, ont été dépassées. Donc ça veut dire que notre modèle, à la fois économique, politique, à l'échelle évidemment internationale, fait qu'en fait, on ne pourra pas continuer comme ça. Pourquoi on ne pourra pas continuer comme ça ? Parce que tout simplement, l'humanité ne pourra pas poursuivre dans cette direction. Parce qu'à un moment donné, quand on puise dans les ressources et qu'on puise plus dans ce que peut nous offrir la Terre, ça s'arrête et ça ne fonctionne plus. En tout cas, ça s'arrête pour l'humanité, pas forcément pour la planète. Ensuite, peut-être rappeler la question justement la question sociale, de comment on vit, et puis la question aussi de ses limites planétaires. Donc, je ne vais pas refaire la théorie du donut, c'est avec le plancher social, du coup, la limite, le plancher qui fait qu'on peut vivre et on peut vivre correctement, et puis les limites planétaires, et puis entre ces deux espaces, c'est là où il faut qu'on puisse travailler. Et donc, sur la petite provocation que vous avez faite sur le fait de dire est-ce que il va tous falloir qu'on vive comme des Amish ou en tout cas qu'on revienne à la calèche, etc. Enfin, toutes les caricatures qu'on peut faire sur la pensée écologiste et sur les solutions qu'on pourrait trouver. Moi, je pense que c'est toujours important de savoir en fait de qui parle-t-on. Et la question du qui, elle est importante, parce que en fait, quand on regarde justement sur la planète, tout le monde justement ne dépasse pas ses limites planétaires. Tout le monde n'a pas un niveau de vie qui fait que on a un impact sur la question des limites planétaires. On sait qu'on a 1% des plus riches qui émettent autant de CO2 que les deux tiers de l'humanité les plus pauvres. Ceux-là, on peut dire effectivement peut-être qu'ils vivent comme des Amish, mais en tout cas, c'est pas choisi. Et c'est sûr que leur impact, il est évidemment négligeable, et en tout cas il est clairement pas, c'est pas eux en tout cas qui viennent puiser dans les ressources, enfin en tout cas dans le dépassement justement de ces limites planétaires. Donc je pense que c'est important de savoir aussi de qui on parle quand on a, et de la question évidemment de la répartition des richesses. Si on prend l'exemple français, on est quand même dans un système politique qui fait que depuis les années 2000, on a de plus en plus de pauvres. On a de plus en plus, on est à entre, on va dire, 9,8 millions de pauvres aujourd'hui, donc qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça veut dire qu'en fait, pour eux, ils sont déjà en dessous, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre correctement. Ça veut dire ne pas pouvoir se nourrir, ça veut dire ne pas pouvoir se loger, ça veut dire ne pas pouvoir se chauffer, ça veut dire ne pas pouvoir se déplacer correctement. Et ça, c'est une donnée qui est importante, parce que si on ne pose pas en fait la question du qui, parce que si on reprend les 1% ou même si on prend les 0,01% les plus riches, pour eux, l'impact justement sur les limites planétaires, il est d'autant plus important. Et donc ça pose la question aussi du quoi, en fait, de quoi parle-t-on, et du coup de qu'est-ce que le confort, qu'est-ce que c'est que cette question de confort, qu'est-ce qui est utile et nécessaire au bien vivre. Et en fait, tout simplement la question, et vous en avez parlé, de à quel moment on peut dire qu'on vit bien, mais on voit bien que ce niveau-là, il peut être très différent. Si on prend un Bernard Arnault qui va faire ses courses en traversant le monde avec son jet privé, l'impact sur les limites planétaires, il est direct, il est total, et on peut dire que ça, c'est pas nécessaire, enfin qu'il peut vivre très correctement, comme plein de gens le font, sans traverser l'ensemble de la planète avec son jet privé, et que en même temps, on a des personnes sur des territoires. Si on prend par exemple territoires ruraux, on a à peu près 30% des personnes de moins de 65 ans, de plus de 65 ans par exemple, qui sont assignées à résidence, donc qui se déplacent moins d'une fois par semaine de chez eux, tout simplement parce qu'elles n'ont pas accès aux transports en commun, parce qu'elles n'ont pas accès, elles n'ont pas une voiture individuelle, parce que ça coûte trop cher. Donc on voit bien les disparités qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas qui doit nous interpeller sur tout simplement la question de notre modèle politique. et la question de la répartition des richesses. Et donc, à un moment donné aussi, forcément, évidemment, d'interroger la question du capitalisme. Est-ce que, du coup, le capitalisme est clairement compatible, justement, avec cette question de limite planétaire? Je ne suis pas totalement persuadé. On ne pourra pas passer d'un modèle à l'autre. Donc c'est la question, c'est comment on évolue, comment on permet justement d'aller vers une société plus de la frugalité. Et derrière, ça doit justement se poser la question de comment, en termes politiques justement, et en termes d'action politique, on peut à la fois mettre des limites. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que on nous parle souvent du progrès. Le progrès comme quelque chose qui serait toujours plus, c'est-à-dire qui nous permettrait de toujours plus consommer, qui serait quelque chose, un peu une course. Et si on prend, je prenais juste l'exemple du numérique, on a aujourd'hui le débat de l'intelligence artificielle, on est sur la 5G, sur la 6G, maintenant sur je ne sais quoi. Est-ce qu'en réalité, c'est des choses qui ont totalement changé notre vie? Est-ce que ce sont des choses qui nous permettent réellement de mieux vivre? Il y avait le maire d'une grande ville à côté de chez moi, Éric Piolle, qui disait, est-ce que justement de regarder du porno dans l'ascenseur en 4K, est-ce que ça nous a changé la vie? Est-ce que c'est quelque chose qui est clairement nécessaire? Évidemment, je ne pense pas. Donc de revoir en tout cas la manière dont de quoi on a besoin et de repartir du besoin, je pense que c'est particulièrement important. Et derrière, ça pose la question de l'imaginaire. La question de l'imaginaire, de la question de savoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est une société et une vie qui nous paraît justement source tout simplement de bonheur. Et cet imaginaire, on le retrouve par exemple sur la question du tourisme. Est-ce que partir à l'autre bout du monde tous les ans pour découvrir un nouveau pays, mais en se retrouvant dans un hôtel totalement déconnecté, est-ce que ça c'est quelque chose qui est vraiment souhaitable? Ou est-ce que, par exemple, de la même chose, de se retrouver dans un territoire juste à côté de chez soi, en fait, qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut apprendre à connaître, de découvrir, de la randonnée en montagne, c'est des choses, justement, qui permettent aussi d'avoir une autre imaginaire, une autre appréhension, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas voyager, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la rencontre d'autres populations, mais on voit bien qu'on a d'autres manières aussi de penser. Et donc, pour moi, ça pose la question aussi de la publicité. La question de la publicité, beaucoup de villes écolo, que ça soit Grenoble, que ça soit Lyon et d'autres, se sont battus en tout cas pour supprimer. On a déposé nous aussi beaucoup de textes pour limiter la question de la publicité, parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir si, quand on habite en ville, qu'est-ce qui fait que on ait besoin, on ait envie surtout, et on se dise c'est bien pour ma vie d'avoir une très grosse voiture, un SUV pour me déplacer. Si on regarde les choses très froidement, pour se déplacer en ville, c'est mieux d'avoir un petit véhicule pour se garer. C'est mieux d'avoir un véhicule qui consomme moins et c'est mieux d'avoir un véhicule qui coûte pas trop cher. Et pour le coup, c'est mieux aussi d'avoir le moins de déplacements possible, parce que ça prend du temps et que le temps, on a envie de faire plein d'autres choses à la place que d'être au volant d'une voiture. Et pourtant, on se retrouve avec cette aberration d'avoir le pire moyen, en fait, quand on parle de progrès, le pire moyen pour se déplacer, celui qui prend le plus de temps, qui coûte le plus cher, qui a un impact environnemental évidemment terrible, dans justement un espace, la ville, qui permet justement plein d'autres solutions. Pourquoi on fait ça? Évidemment, quand on demande à des constructeurs, ces constructeurs nous disent « Non, mais ça, c'est les Françaises et les Français veulent des grosses voitures, c'est une demande. » En fait, c'est pas une réalité, c'est une construction sociale. C'est effectivement ce qu'on a mis à travers la publicité qui nous a orientés. Et donc là, oui, il y a des choix politiques très clairs sur qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut apporter aussi à nos populations. Et ça, c'est important. Et on le voit d'ailleurs sur des politiques publiques très fortes, en matière de mobilité. Quand il y a des politiques publiques très fortes en matière de mobilité, sur les transports en commun, sur le vélo, mais ça veut dire des politiques qui sont engagées, ça veut dire sur les infrastructures, sur la sécurité, sur l'apprentissage aussi à l'école. Et ben on voit qu'en fait qu'est-ce qui se passe, on a un inversement justement de l'utilisation de ces véhicules, et des gens justement qui vont passer plutôt soit piéton, soit vélo, soit transport en commun, et en général qui ne reviennent pas parce qu'ils ont compris que ben c'était évidemment dans leurs habitudes quelque chose de bien bien meilleur. De prendre le train pour aller à son travail quand on est un peu loin, bah ça permet de lire, ça permet de dormir, ça permet de se reposer, et en même temps, bah ça n'a pas d'impact ou un impact moindre sur l'environnement. De la même manière sur le vélo. Bah ça peut se faire évidemment avec des choix, avec des politiques qui sont assumées, qui se font sur le long terme. Et je dirais qu'ils se font en proximité, parce que ça c'est peut-être l'autre aspect, c'est tout ce qu'on peut faire en termes de changement et qui peut nous faire prendre conscience justement sur l'action de ce qu'on peut avoir sur justement ces limites planétaires, c'est quelque chose qui est pas souvent évident, en tout cas c'est pas quelque chose qui est forcément dont on peut se rendre compte tout de suite. Ce que je disais sur le numérique, quand on est tous avec nos téléphones, quand on va changer de téléphone au bout de 2 ou 3 ans, quand et encore. La plupart du temps, c'est 6 mois. On se pose pas forcément la question de ce que ça implique justement sur les limites planétaires, sur les ressources, etc. Bah ça, si à un moment donné, on n'a pas des lois, on n'a pas des textes qui viennent régir aussi ces aspects-là sur la question de l'obsolescence programmée, sur comment on répare plutôt qu'on jette, on voit bien que on n'y arrivera pas. Et pourtant, quand on a ces politiques de proximité, ça fonctionne. Parce que moi, il me semble que changer d'habitude, en fait, c'est jamais quelque chose de naturel, c'est jamais quelque chose de facile. Passer d'un gros SUV à un vélo, quand on a toujours fait ça, bah c'est pas, voilà, personne n'a envie réellement de changer. Moi le premier, de se dire que je peux essayer de travailler sur mes déperditions énergétiques et donc peut-être faire des travaux sur mon habitation pour avoir moins de dépenses énergétiques. Bah, s'il n'y a pas une politique publique qui accompagne, à la fois financière parce qu'il faut les moyens, mais aussi qui stimule, qui montre que c'est nécessaire, en réalité ça se fait pas. Et donc je pense que cette question aussi de proximité, et c'est pour ça que moi je pense sur cet aspect-là, la question des politiques publiques locales et de proximité, et on le voit partout où ça se fait et à toutes les échelles, que ça soit dans les métropoles, que ça soit dans les grandes villes, mais aussi que ça soit dans les territoires ruraux, on s'aperçoit qu'on arrive clairement à changer les choses, tout simplement parce que on a cette vision très très locale. Je prendrai que quelques exemples, mais sur la question énergétique, par exemple, on va prendre l'échelle de l'intercommunalité. Quand une intercommunalité se dit, si j'essayais de travailler à avoir une autonomie énergétique, comment à mon échelle je travaille sur une autonomie énergétique, c'est très parlant et c'est très visible. C'est-à-dire que, pour avoir une autonomie énergétique, je vais avoir des moyens de production. Des moyens de production énergétique, ça se voit, ça a un impact, ça a un impact environnemental. Savoir que, l'éolienne, oui, elle se voit, elle est pas très belle pour certains, peut être très sympathique pour d'autres, peu importe, mais en tout cas, elle est là, des panneaux solaires, ils sont là, il faut que peut-être, hélas, ils viennent de Chine, mais en tout cas, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir. Et donc, la question de se dire, à un moment donné, quand une collectivité se dit, je prends l'exemple de ce que j'ai pu faire sur ma collectivité, passer par exemple avec une solution bois parce qu'on est dans une zone forestière et alors qu'avant l'ensemble des bâtiments étaient chauffés au fioul, je peux vous dire que c'est très direct. La ressource, c'est la nôtre. La ressource, c'est la forêt. C'est à chaque fois qu'on coupe un arbre, on sait que c'est justement pour alimenter la chaudière du village. Et donc la question du coup de ces limites planétaires, je veux dire, elle est directement concrète. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on maîtrise. On maîtrise à la fois la ressource locale, on maîtrise à la fois le coût, et donc pour les habitants, c'est une maîtrise énergétique, et donc par rapport aux crises, etc. Je veux dire que nous, on n'a pas vu l'augmentation du prix, puisque le bois, il était là, la personne qui le coupe est là aussi, et donc ça a pas eu d'impact, ou en tout cas un moindre impact. Donc tous ces aspects-là très très concrets. Moi, je pense que c'est particulièrement important dans ce qu'on peut donner, ce qu'on peut montrer, et qui sont, parce qu'on a toujours l'impression que c'est des petites choses, ce sont des impacts très importants, en tout cas sur ce qu'on peut faire. Et puis, je pense qu'on a tout aussi un autre aspect qui est peut-être. Enfin, je veux finir par ça parce que je pense qu'il y a la question vraiment de la question de la créativité. C'est-à-dire que si à un moment donné on reste dans cette vision en fait du progrès coûte que coûte, sans se poser la question de réellement ce qui nous apporte, de réellement qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui nous permet de bien vivre, je pense qu'effectivement on fera fausse route. Et la question justement de je parlais de l'imaginaire, de repenser les choses, de ce droit à la fois au rêve et à la créativité, moi ça me paraît important. On est dans un moment politique où il faut à la fois résister à cette question et cette notion de résistance. Il y avait quand même, voilà, si on reprend le terme de la résistance, c'est résister, c'est créer, et créer, c'est résister. Je pense qu'on revient à ces pensées-là qui doivent nous permettre aussi de repenser notre société, et que on n'arrivera pas justement à lutter contre ces limites planétaires si on ne repense pas notre modèle politique, si on repense pas notre manière de faire société, et si on repense pas en fait nos relations humaines, parce qu'en fait ce qu'on a besoin, c'est en réalité à la fois de moins de matériel et évidemment beaucoup plus de relations humaines.
Merci, merci Guillaume Gontard. Dans les questions que je réserve un peu pour la suite et peut-être dans nos échanges, c'est la question peut-être de la cohérence de toutes les actions locales, territoriales que vous avez évoquées par rapport aux limites planétaires. Peut-être qu'on en reparlera. Mais du coup, tout ce que vous nous avez dit sur l'importance des politiques publiques locales et de proximité, ça m'amène à demander à Clotilde Saunier d'intervenir, parce que de votre côté, donc vous, Clotilde, vous faites une thèse de doctorat sur l'intégration des limites planétaires dans les politiques territoriales à partir du cas de villes, de collectivités. Donc c'est intéressant aussi que nous racontiez un peu comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire intégrer les limites planétaires dans une politique publique territoriale. Donc Guillaume Gontard nous a parlé pas précédemment. Et qu'est-ce que ça donne concrètement ?
Oui, merci. Donc moi, je fais une thèse en sociologie politique, sciences politiques, et effectivement, j'étudie deux collectivités, donc la ville de Grenoble et la région Bruxelles-Capitale, qui, un peu à contre-courant de la tendance actuelle qui n'est pas vraiment à la prise en compte de limites planétaires, elles ont essayé, à partir de 2020-2022, d'intégrer les limites planétaires dans l'action publique locale à travers un outil qui s'appelle le Donut. Et je vais y revenir après. Pour répondre à la question un peu qu'on se pose ici, j'avais envie de vous lire un peu un extrait de terrain, comme on dit en sciences politiques. C'est un enquêté qui, lors d'une observation que j'ai faite à Grenoble, dit la chose suivante. Donc il dit « Alors, est-ce qu'il est trop tard pour qu'on puisse tous avoir le même niveau de vie qu'un riche Texan américain d'ici 2040 ?» Oui. Surprise. Mais est-ce qu'il est trop tard pour avoir un futur ? Absolument pas. Et donc je voulais vous partager cet extrait parce que je trouve qu'il permet de continuer à contextualiser un petit peu ce qu'on appelle niveau de vie. Voilà, Catherine Larère et Guillaume Gontard l'ont déjà rappelé, les inégalités du niveau de vie, c'est pas uniquement du revenu, mais c'est aussi des pratiques de consommation, etc. Donc on n'a pas le même impact qu'on soit un milliardaire ou qu'on soit au RSA, qu'on habite au nord global ou au sud global, mais aussi il faut bien avoir en tête les ordres de grandeur, c'est-à-dire que les émissions attachées au niveau de vie sont pas du tout les mêmes si on raisonne uniquement en carbone. En faisant une rapide recherche, je suis retombée sur un rapport d'Oxfam en 2023 qui montrait que 1% les plus riches au niveau mondial émettent autant de gaz à effet de serre que 66% des plus pauvres. C'est quand même un ordre de grandeur qui est énorme en termes de responsabilité dont on pouvait parler un peu précédemment. Donc, maintenant que tout ça s'est posé, comment font des collectivités locales quand elles essayent de prendre en compte des limites qui d'autant plus sont planétaires alors qu'elles ont des compétences limitées et sur un territoire restreint ? Alors, tout d'abord, la première chose, et c'est pas anodin, c'est que dans les deux collectivités que j'étudie, il y a des élus écologistes et de gauche qui mettent à l'agenda politique la prise en compte de ses limites. Et donc qui disent c'est une question de politique et de politique publique d'adresser ces limites et de permettre un avenir sur une terre qui reste habitable pour les habitants du territoire. Et pour le faire, ils recherchent des outils qui permettent de concrétiser un petit peu cette demande politique. Et c'est là qu'intervient le donut. Donc il a été un peu mentionné par Guillaume Gontard, mais je voulais savoir à main levée ici qui a déjà entendu parler de l'économie du donut, de la théorie du donut, de Kate Raworth, tout ça.
Tout le monde.
Ok, très bien. Pour les personnes qu'on n'aurait pas entendu parler, donc c'est une proposition économique d'une Britannique qui s'appelle Kate Raworth. Et voilà, elle fait un livre avec 7 propositions pour réviser l'économie. Et le premier principe, c'est de ne plus chercher la croissance du PIB comme objectif de l'économie, mais plutôt son réencastrement dans des limites environnementales et sociales. Donc elle parle d'un plafond environnemental, c'est les 9 limites planétaires. Et après, il y a un plancher social. Et ça correspond à des minima sociaux. Et donc c'est accès à l'alimentation, la santé, l'éducation, etc. Et donc les deux collectivités en question vont essayer de mettre en place ce donut dans leur politique publique. Et si je les ai choisis, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elles le font en souhaitant intégrer une contrainte écologique dans l'action publique, c'est-à-dire de ne pas dépasser ses limites. Il y a environ 60-70 collectivités dans le monde qui mettent en place cet outil et qui le font pas forcément pour ces raisons-là. Pour certains, c'est visualiser de manière originale les objectifs du développement durable. Pour d'autres, il y a des choix d'indicateurs qui correspondent pas véritablement à une logique de limites planétaires et de dépassement de seuil. Donc, ce qui est important quand on travaille sur ce genre de sujet, notamment en tant que politiste, c'est de regarder comment ça va être traduit et donc les configurations concrètes de la mise en place. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Dans les deux collectivités, en fait, elles ont réalisé ce qu'elles appellent un portrait donut de territoire. Donc, c'est une évaluation sociale et environnementale du territoire et qu'on représente ensuite sous forme du donut, donc cette forme graphique un petit peu particulière où on visibilise les dépassements environnementaux et les privations critiques qu'il y a sur le territoire. C'est quelque chose qui est fait de manière assez régulière et il y a une tendance à vouloir comparer un petit peu ces portraits de territoire. Il faut savoir qu'en fait, aucune collectivité ne prend les mêmes indicateurs. Donc, ce n'est pas vraiment des choses qui sont comparables, mais qui donnent un ordre d'idée de la situation sociale et environnementale sur le territoire. Et donc, pour Bruxelles, donc c'est au niveau de la région, et en 2020-2021, donc la secrétaire d'État régionale à la transition économique, elle va proposer d'utiliser le donut comme nouveau cadre pour l'économie bruxelloise. Et donc, ça veut dire l'intégrer dans la nouvelle stratégie de transition économique de la région. Et aussi, son objectif, c'est de l'utiliser pour conditionner les aides économiques aux entreprises. Donc d'avoir des critères sociaux et environnementaux qui permettent de décider à qui on donne ou pas de l'argent public. Et là, on a un peu une réussite en demi-teinte, parce qu'au début, l'exploration du donut suit son cours assez facilement. Il y a des financements qui sont donnés à une association et une université. Mais quand il s'agit d'intégrer au préambule de la stratégie de transition la mention du donut, là, l'élu fait face à des oppositions politiques au sein du gouvernement régional, qui est une coalition, à l'époque, entre 2019 et 2024, notamment de la part du Parti libéral, qui refuse la mention de ce terme parce qu'il remettrait trop frontalement en cause la croissance économique. Et donc, le mot disparaît de cette stratégie, mais pas l'idée qui est de respecter des plafonds environnementaux et un plancher social. Donc ça montre quand même la centralité de la poursuite de la croissance et de sa non-remise en cause pour certaines formations politiques. Et le travail ne s'arrête pas là. Dans un deuxième temps, comme ce n'est pas inscrit dans le texte, il y a tout un travail de sensibilisation des administrations bruxelloises qui est réalisé par une association qui travaille sur ce sujet pour essayer de les convaincre d'intégrer cette logique de donut dans l'action publique. Et on a bien une réglementation qui conditionne les aides économiques qui voient le jour, mais qui se fait en fait avec un lien très distendu avec ce donut. Il n'y a pas de mention de limites planétaires, mais il y a des critères sociaux et environnementaux qui sont mis en place sur base de labels qui existent déjà. Donc on a une réussite un peu en demi-teinte pour le cas bruxellois. Et par contre, à Grenoble, du coup, il y a une délibération municipale qui est votée en 2022 avec l'idée de faire du donut, cette fois, un cadre pour les politiques publiques dans leurs ensembles. Et donc, comment c'est fait ? Il y a globalement un service qui va se créer progressivement au cours du mandat jusqu'à maintenant de prospective, où le donut est une des approches qui vise à prendre en compte les limites planétaires dans l'action publique. Et donc j'ai mentionné le portrait, mais il y a aussi une grille d'évaluation sociale et environnementale des projets qui est mise en place. Il y a également des protocoles de redirection écologique, donc par rapport aux piscines municipales et au futur des métiers de l'action publique qui est mise en place. Et le cas grenoblois est plutôt le cas d'une réussite de l'inscription du donut dans l'action publique avec voilà, une place centrale qui va prendre en étant ajoutée dans les différents plans et stratégies de la municipalité et une pérennisation du projet à travers un poste qui est ouvert en 2025. Mais dans les deux cas, dans le cas de Bruxelles et de Grenoble, il faut noter qu'en fait le passage d'un outil de visualisation, donc le portrait, à des outils de traduction politique qui traduisent en fait la contrainte écologique, elle fait face à des résistances politiques et administratives, même dans le cas bruxellois, des résistances à évaluer des projets à l'aune de critères socio-environnementaux qui peuvent exister au sein des services, qui peuvent aussi se faire sentir parfois au niveau des élus. Forcément, on n'a pas envie de prendre une décision, que la décision politique elle soit déléguée à une évaluation et à des chiffres strictement. Donc voilà, c'est quand même une mise en place qui peut donner lieu à des tensions, mais qui à Grenoble va plus loin qu'à Bruxelles. Et on peut se dire, voilà, et les niveaux de vie dans tout ça. Donc malheureusement, mon enquête, elle porte pas sur les effets auprès des habitants de ces politiques. Moi, je regarde la fabrique de l'action publique, donc comment les élus et les agents portent un peu ce sujet et la difficulté qu'il peut y avoir à porter le sujet d'une action publique qui s'auto-limite sur des critères sociaux et environnementaux et aussi à le mettre en place et à l'opérationnaliser. Mais bien sûr, pour les deux collectivités étudiées, l'objectif, c'est de transformer l'action publique et les logiques par lesquelles elle était faite jusqu'alors et donc d'améliorer par là les conditions de vie des habitants. Et donc à Bruxelles, par exemple, conditionner l'aide économique aux entreprises, derrière l'objectif c'est de transformer l'économie bruxelloise et donc la vie des Bruxellois et Bruxelloises avec plus d'emplois dignes à disposition et aussi des produits de meilleure qualité. Et à Grenoble, il y a eu par exemple la décision de ne pas réhabiliter une piscine municipale et à l'inverse d'ouvrir un espace baignable en extérieur accessible à tous, qui a des effets bien sûr bénéfiques en termes de gratuité, d'espace de fraîcheur en ville, etc. Voilà, merci.
Merci Clotilde Saunier. Non, maintenant je me tourne vers. On a beaucoup parlé politique locale, politique territoriale. Si on élargit un peu la focale et qu'on regarde les choses d'un peu plus d'un point de vue macro, quand on est économiste, Xavier Timbaud, et qu'on essaye d'intégrer le donut dans l'équation, qu'est-ce que ça veut dire sur nos modes de vie? Est-ce qu'on peut atteindre la neutralité carbone en 2050 sans bousculer nos modes de vie, se serrer la ceinture, enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes de PIB, en termes de niveau de vie? Et évidemment, cette question derrière, il y a celle du partage de l'effort, celle du rôle de la technique et celle aussi du modèle économique.
Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, et puis c'est un débat qui est très riche, c'est un débat qui est très compliqué. Donc, je vais essayer de vous donner juste deux, trois éléments, mais évidemment, je pense qu'à la fin, on va tous sortir un peu frustrés parce qu'on ne sera pas allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait dire et de ce qu'on voulait dire. Bon, la première chose qui est très importante, avant qu'on s'écharpe sur un certain nombre de questions, c'est déjà de pointer ce sur quoi on est d'accord. Et la première chose sur laquelle on est d'accord, c'est les limites planétaires et le fait qu'il faille les respecter. Alors, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et donc, il faut quand même aussi qu'on soit bien conscient que, comme ce n'est pas évident pour tout le monde, si c'est évident entre nous, ben, il faut qu'on accepte d'être des alliés objectifs autour de cette question. Parce qu'il y a des gens encore qui considèrent que ce n'est pas important, ce n'est pas le point, C'est pas la responsabilité des sociétés humaines. C'est pas démontré, c'est pas voilà. Il y a des choses plus subtiles aussi. On en a un tout petit peu parlé, mais quand on parle des limites planétaires, on parle de plusieurs choses. 9, 11. On parle éventuellement de leur déclinaison locale. Il y a des gens pour qui le déni va être de dire j'en prends une, j'en accepte une, le carbone. Et puis les autres, on verra. On va commencer par le carbone. Ça, c'est une forme de déni. Alors, c'est un déni qui est un peu plus subtil, parce que, vous voyez, vous ne pouvez pas lui dire « tu es un climato-sceptique », parce que justement, ce n'est pas un climato-sceptique, c'est un climato-convaincu. Mais il fait implicitement une hiérarchie entre ces limites planétaires. Or, en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre ces limites planétaires. Bon. Donc, sachons ce sur quoi on est d'accord, et déjà, tâchons tous ensemble de conserver ce sur quoi on est d'accord. Après, on va pouvoir se fâcher un peu. Alors, pourquoi on va se fâcher ? On va se fâcher parce que, en fait, il y a des mots très importants qui ont été dits. Modèle de société, capitalisme, autonomie, mode de vie, tout ça, c'est des éléments qui sont revenus et qui sont posés comme les conséquences des limites planétaires. C'est-à-dire, en fait, les limites planétaires remettent en cause ces éléments. Et donc, on pense que pour résoudre le problème, il va falloir s'attaquer à chacun de ces points. Donc, c'est une espèce de transposition des limites planétaires dans un autre domaine, mais qui, cette fois-ci, est beaucoup plus lié au fonctionnement des sociétés, et dans lequel on va mettre en vrac plein de choses. J'oublie un mot-clé très important, c'est inégalité, évidemment, qui doit intervenir à ce titre. Et puis, chacun va avoir une certaine vision d'un certain nombre de choses. Et puis, s'il y a un économiste dans la pièce, dire à l'économiste, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Là, on prend l'économiste un peu comme un psychanalyste sur lequel on fait une projection. C'est-à-dire qu'on pense que l'économiste, c'est l'économie. Or, c'est pas les économistes qui font l'économie. L'économie, c'est vous qui la faites. Quand vous allez travailler, quand vous allez acheter de la nourriture au supermarché, quand vous choisissez d'habiter un certain endroit, ce qui implique certaines mobilités, un mode de chauffage. En fait, les modes de vie, c'est vous qui les choisissez, c'est pas les économistes. On a parlé de mode de vie, on a parlé de capitalisme. En fait, il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est les modes de production. Alors, est-ce que c'est que vous qui faites l'économie ? Non, c'est pas que vous, il y a des tas d'autres gens qui font de l'économie. Est-ce qu'il y a des gens qui font plus l'économie que vous ? Oui, probablement. Mais d'ailleurs, dans la conversation qu'on a autour des limites, oui, il va y avoir des groupes de pression, des groupes d'intérêt. Il va y avoir des gens qui vont penser que, enfin, quand on parle des noisettes, c'est d'un côté le Nutella, c'est aussi les consommateurs de Nutella qui sont quand même, bah, il n'y aurait pas les consommateurs, il n'y aurait pas de Nutella.
Ça se discute.
Ah, bah, oui, mais enfin, non, mais ok, bien sûr, ça tourne en rond. Mais il n'y aurait pas, enfin, je veux dire, vous avez tous mangé une fois dans votre vie au moins du Nutella. Non ? Catherine, non ? Bon, ok. Qui n'a jamais mangé de Nutella ? Vraiment ? Jamais, jamais. Même pas de la pâte à tartiner bio faite avec des noisettes du Lot-et-Garonne. Oui, mais c'est fait avec des noisettes quand même. Oui, bio, mais c'est quand même fait avec des noisettes. Bon, ok. Donc, il y a quand même beaucoup de consommateurs de Nutella. Nutella est fabriqué par une entreprise qui utilise des productions qui sont faites par des agriculteurs, qui utilise des engrais et des pesticides, surtout, qui sont faits par l'industrie des pesticides. Donc, on est face à toute une énorme machine qui brasse beaucoup d'argent. Et donc, ce beaucoup d'argent fait que, quand on dit à ces gens, bah, vous allez arrêter d'utiliser des pesticides, oui, ils coincent et ils quittent. Bon, très bien. Mais ce n'est pas la faute des économistes. Hein. C'est certainement pas la faute des économistes. Alors, qu'est-ce que font les économistes dans tout ça ? Bah, les économistes, ils regardent tout ça. Il y en a qui essayent de comprendre. Il y en a qui, parfois, vont au guichet prendre un peu d'argent pour défendre les lobbies et les intérêts. Ça existe, hein. Il y en a moins chez les philosophes, mais bon, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Mais ouais, bon, mais ça existe chez les économistes. J'ai des noms si ça vous intéresse, mais c'est pas le cas de tous les économistes. Après, il y a beaucoup d'économistes qui se posent la question de savoir, ben, j'ai les limites planétaires, j'ai ce que je comprends de comment la société fonctionne, Nutella, les noisettes, les pesticides, les consommateurs, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire rentrer cette société dans les limites planétaires? Quels sont les outils dont je dispose? Alors, dans ces outils, il y a des outils que les économistes n'aiment pas beaucoup, mais qui sont les outils du type on va changer notre perception, notre vision, on va changer notre morale en disant c'est pas bien de consommer du Nutella. Alors, ils n'aiment pas beaucoup ça, en même temps ils ont un peu tort parce que ça fonctionne. La question c'est, et c'est peut-être pour ça qu'ils n'aiment pas beaucoup ça, c'est de savoir est-ce que ça peut fonctionner complètement? Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout du respect des limites planétaires comme ça? La réponse, le problème c'est qu'on ne sait pas trop. Mais probablement non. Et probablement non, c'est à la fois une réponse d'économiste, mais c'est aussi une réponse de politiste. Une partie du backlash aujourd'hui sur l'écologie, il est lié à ça. L'injonction morale, et puis l'injonction morale qui est pas toujours, dont on n'a pas toujours démontré qu'elle fonctionnait. Alors, si je dis à tout le monde, c'est pas bien de manger du Nutella, manger du Nutella bio, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Ils aiment pas les pesticides. Ils ont pas envie qu'on tue les abeilles. Ils ont pas envie qu'on surproduise des noisettes, etc. Mais ils ont pas envie de payer leur Nutella 3 fois plus cher. Et ils n'ont pas envie, pour manger du Nutella, de se priver de tout un tas d'autres choses. Et quand on leur dit, oui, mais il faut être frugal et il ne faut pas exagérer votre confort, ils disent, mais ce n'est pas mon confort, en fait, c'est mes seuls plaisirs dans la vie. Et en plus, on me demande ça à moi, alors qu'il y a des gens très très riches à qui on va demander beaucoup moins. Et puis, bah, on arrête et on dit, je refuse de le faire, et on rentre dans un truc dont on n'arrive pas à sortir. Le travail des économistes, c'est de poser cette question, c'est-à-dire si ça, ça marche pas, et si ça marche pas jusqu'au bout, comment est-ce qu'on peut faire, malgré tout, pour arriver à quelque chose? Et c'est là qu'on va pouvoir éventuellement commencer à se disputer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les économistes sur comment on peut faire? En gros, les économistes, bon, je vous parle pas pour moi parce que c'est pas exactement ce que je pense, mais je vous parle des économistes. Alors, la plupart des économistes s'intéressent pas du tout à cette question, donc en plus... Non mais c'est pour ça que faire le procès des économistes sur ces questions, c'est en fait souvent un peu injuste, parce qu'en fait on fait le procès des économistes sur cette question de ceux qui s'intéressent à cette question, qui ont peut-être pas des réponses qui vous plaisent, mais au moins ils s'intéressent à cette question sincèrement. Mais je parle pas des économistes qui vont chercher de l'argent dans les banques ou dans les lobbies pétroliers, parce que non seulement ils s'intéressent pas à cette question, mais en plus ils font tout dans l'autre sens. Voilà, cela on n'en parle pas parce que voilà. Mais bon, ok. Donc ils s'intéressent à cette question et ils disent quoi? Ils disent en fait, il y a 2 leviers sur lesquels il va falloir qu'on joue. Parce que avec l'autonomie, avec la morale, on ne va pas aller suffisamment loin. Donc les 2 leviers sur lesquels il faut qu'on joue, c'est le prix. Et ils vont vous dire, le prix, c'est très important. Parce que justement, je ne peux pas aller expliquer, je ne me sens pas d'aller expliquer aux gens que aller en vacances aux Maldives, c'est pas bien, et qu'il faut plutôt aller en vacances près de chez soi. Je me sens pas d'aller expliquer aux gens que manger du Nutella, c'est pas bien, et qu'il faut préférer manger des légumes verts et ne pas manger de viande. Peut-être que je peux être convaincu, moi, que c'est ce qu'il faut faire, mais je me sens pas d'aller imposer ça à tout le monde. Et je sais que si je vais pour imposer ça à tout le monde, je vais perdre beaucoup, beaucoup de gens en route et que je vais me heurter à un mur. Donc l'économiste, il dit, il faut pas faire ça. Il ne faut pas rentrer dans la morale des consommations, des modes de vie. Ce qu'il faut, c'est mettre un prix qui va correspondre au dommage qui est impliqué par ma consommation. Donc si mon Nutella, il est fait avec des noisettes, des pesticides, de l'huile de palme qui déforeste, je vais évaluer le dommage et je vais mettre un prix à hauteur de ce dommage. Bon, c'est un petit peu abstrait comme notion, mais on peut même mettre plus que ce prix, où on peut évaluer le dommage de façon exagérée, disons, et en disant, ce que ça va faire, c'est que ça va tuer Nutella, parce qu'il n'y aura plus de consommateurs. Parce que les noisettes bio sans pesticides et sans huile de palme seront moins chères que le Nutella toxique. Alors, c'est une bonne solution, ok. Il y a une deuxième solution que les économistes ont en tête. En fait, quand ils pensent au prix, ils pensent que c'est surtout ça qui va se passer. Ils pensent à la technologie et ils pensent à la capacité de l'économie marché à proposer, ça c'est la partie mode de production, à proposer des modes de production qui seront plus respectueux. Donc en gros, si je mets un prix sur le carbone très élevé, les gens ils vont arrêter de prendre leur voiture à essence parce qu'elle coûte très cher. Et les constructeurs automobiles ils vont arrêter d'en produire parce qu'elles sont trop chères à utiliser et donc les gens ne les achètent pas. Et donc ils vont produire des voitures électriques. Ou peut-être que dans les collectivités, on va se rendre compte que s'il vaut mieux mettre des trains ou des tramways. Ou peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, les gens ils diront habiter à la campagne, c'est trop cher. Il vaut mieux habiter près des transports en commun. Et donc, ils habiteront près de la ville ou dans la ville, donc ça va densifier. Enfin, il ne faut pas oublier que le territoire dans lequel on vit aujourd'hui, il a été fabriqué au cours des 50 dernières années parce que le prix du transport était très très bas. Donc en gros, le raisonnement des économistes, c'est de se dire, si le prix du transport très très bas a fait la société dans laquelle on est, un prix du transport très très élevé va nous ramener dans une société complètement différente, dans laquelle on aura beaucoup moins de mobilité. Et moins de mobilité, ça ne veut pas dire qu'on est plus malheureux, parce que peut-être qu'on pourra aller plus au cinéma et aux services publics et à l'hôpital, parce qu'on habitera plus près des hôpitaux. Donc c'est ça ce que les économistes pensent. C'est changer la technologie, la façon dont on produit les voitures électriques, la façon dont on produit l'électricité, changer la façon dont on va produire les territoires, qu'en mettant des prix même pas si importants que ça, petit à petit, si on les met pendant un temps très long, ça produit des changements très profonds et ça aboutit à quelque chose. Alors, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les économistes ne s'intéressent pas à cette question, c'est parce qu'ils considèrent qu'en fait, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, ils considèrent que ça, c'est un truc qu'on fait en première année d'économie, on apprend ça, on a quelques exemples où ça fonctionne, et ils disent, c'est un truc d'étudiant de première année en économie, la question environnementale du point de vue des économistes. Et donc, on ne s'y intéresse pas parce que ça n'est pas intéressant. Et puis, y a quand même un petit problème dans cette approche, c'est que dans cette approche, on se heurte à quelque chose que les économistes, pour le moment, refusent un peu de voir, qui est que, sur le papier comme ça peut fonctionner, mais en fait, pour que ça fonctionne vraiment, il faut accepter que d'abord, on va faire des politiques publiques d'ampleur qui n'ont jamais été accomplies, d'une complexité qui n'ont jamais été accomplie, c'est-à-dire c'est les territoires qu'on a fabriqués pendant 50 ans avec un coût du transport bas, il faut réinverser la tendance. Ça, c'est pas juste changer le comportement, fumer un peu moins ou boire un peu moins d'alcool. C'est un changement qui est profond. Et que faire les politiques qui conduisent à ce changement profond, en fait, on ne sait pas les faire et qu'il ne suffit pas de mettre un prix pour que ça fonctionne. Quand on met un prix sur l'essence, si la voiture électrique elle n'est pas disponible à un coût raisonnable, les gens ils payent plus cher l'essence. Point. Et donc, du coup, ils ne sont pas contents. Et donc, du coup, la politique publique, elle échoue. Donc, si on ne coordonne pas le signal prix qu'on met sur l'essence avec est-ce qu'il y a des solutions alternatives possibles, ça ne marche pas. Si on met en place un coût de l'essence élevé à un moment où il y a une crise du logement et où les gens qui se disent « Tiens, j'habiterai bien en centre-ville » ne peuvent pas habiter en centre-ville, ça coince. Si on a un coût de l'énergie qui est plus élevé, mais que les gens ne peuvent pas habiter dans des logements neufs parce qu'il y a une crise du logement, parce que ces logements sont trop chers et qu'ils sont contraints de rester dans des logements qui sont mal isolés et dans lesquels le système de chauffage est inadéquat, ils vont devoir payer. Et donc, si on n'a pas une planification d'ensemble qui est faite de façon pertinente, si on ne met pas en place les outils pour aussi traiter les questions évidemment qui vont se poser d'inégalité, parce que tout ça va se faire de façon hétérogène suivant les territoires, suivant les individus, si on ne fait pas tout ça en évitant d'être... Parce qu'au départ, les économistes disent qu'il faut faire ça pour éviter d'être moraliste et d'imposer aux gens des changements de mode de vie qu'ils n'auraient pas voulu. Mais si on fait ça en étant paternaliste et en disant « mais je vais te compenser », le terme « compenser », il est horrible en fait. Donc quand on dit aux gens « j'introduis une taxe carbone, mais je vais faire une compensation », c'est extrêmement paternaliste en fait. Les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Les gens, ils ont envie d'entendre « oui, je veux participer à sauver la planète, je ne veux pas être compensé d'un truc que je ne comprends pas, qui m'explique, les gens m'expliquent qu'il faut que je change de comportement, mais en fait ils me disent mais toi tu peux pas, donc toi on va te compenser, mais ça veut dire que c'est en fait il y a que les autres qui changent, moi je change pas, aujourd'hui on me compense, mais demain qu'est-ce qui va se passer pour moi, on va me dire t'es pas un bon citoyen, ou on va arrêter de me compenser. Voilà, le coup de la compensation on l'a fait pour la mondialisation, hein. On a dit la mondialisation c'est super, vous allez voir, on va payer moins cher les vêtements, et on va compenser les industries du textile, on a fait les pré-retraites, et puis normalement on a dit les pré-retraites, c'est une honte, c'est un scandale, les gens ils arrêtent de travailler alors qu'ils ne contribuent pas à la société, et donc en fait la compensation, on finit par l'enlever, et les gens quand ils entendent compensation, ils entendent ça, quand on leur dit on va vous faire un chèque pour compenser le carbone, ils savent que le chèque de cette année il est de 150 €, mais l'année prochaine ils se disent il sera de 100 €, parce qu'on va nous expliquer qu'il n'y a plus de sous. Et pendant ce temps-là, le prix du carbone, il aura augmenté. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on construit un contrat social. Bon, voilà. Donc, ça, c'est ce que les économistes ont raté. Ils ont complètement raté ça. Et c'est dramatique. Bon, alors après, est-ce que c'est irrécupérable? Moi, je ne crois pas. Mais ça va être compliqué.
Merci, Xavier Timbaud. Et bravo. Bon, donc si je caricature un peu le propos, on n'a pas vraiment de problème de niveau de vie, de train de vie. Il faut mettre un prix sur ce qui est mauvais. Les technologies vont venir au secours et comme ce prix a des effets anti-redistributifs, il faut un dialogue social et délibérons ensemble sur le partage des conséquences de ces prix qu'on met sur les biens nocifs. En caricaturant, il y aura peut-être des débats justement là-dessus, techniques, pas techniques, et d'autres questions. Je pense que vous avez beaucoup parlé, vous avez sûrement les uns et les autres envie de réagir, questionner, critiquer, demander des précisions. Je vois des mains qui se lèvent, on va faire un premier tour, même beaucoup de mains. Alors monsieur, oui, et puis madame après, et puis après, voilà, et puis voilà. Est-ce qu'il y a un micro qui se promène dans la salle? On peut être collaboratif. Voilà. Peut-être madame. Oui, il y avait un monsieur. Voilà. Bon, ben, allez-y.
Désolée, je voulais pas griller la place. Je vais essayer d'être hyper rapide, mais je suis pas.
Oui, je vous remercie. S'il vous plaît.
Un constat, trois remarques. J'ai l'impression quand même que là, on parle entre privilégiés blancs, donc c'est quand même un peu compliqué. Et c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de prise en compte d'autres vérités. Trois remarques. Première, je pense qu'il y a déjà un problème au niveau des décisions politiques, c'est-à-dire qu'il nous faudrait une élite politique qui ne soit pas déconnectée du monde actuel, que ce soit pas et qui soit pas dans la, je vais dire le mot un peu dans la magouille. Je prends juste l'exemple de la mobilité. On a l'impression que tout repose sur des choix individuels. Mais non, en fait, c'est des histoires de choix politiques. L'exemple de la mobilité. Les ministres des Transports ont toujours été un peu en collusion avec les fabricants de voitures et ils ont fait toute la France sur un système voiture. Et maintenant, on vient nous faire la morale. C'est pas bien les SUV, faut faire du vélo, etc. Comme si on décidait d'où est-ce qu'on voulait habiter, de quelle mobilité on veut avoir. On décide pas, on subit en fait tous les jours. Donc venir tout remettre à chaque fois sur le dos des citoyens, c'est hyper rageant. Des choix politiques de merde ont été faits depuis 50 ans. On les subit en pleine gueule et surtout les quartiers populaires, parce que là c'est le non-dit un peu de l'histoire. On leur met toujours sur le dos toutes les fautes. Ils mangent des McDo, ils aiment le Nutella. Non, c'est bon que 2 minutes. Donc le courage politique et l'éthique politique, où est-elle? Deuxièmement, la co-construction. On parlait d'imposer des choix, mais en fait il faut pas imposer des choix. On voit bien que ça s'est cassé la gueule. Il faut co-construire des choix, prendre les gens, ne pas faire pour eux, mais faire avec eux, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, où on leur demande, ils ont des idées, les gens ne sont pas cons. En France, on n'arrête pas de penser, les élites pensent que les Français sont des cons, qu'ils ne savent pas réfléchir et qu'il faut réfléchir pour eux. Ben non. Et troisième chose, Les citoyens aussi ont une autonomie, des idées, ils font des choses, on n'attend pas tout du public, et malheureusement, ils font des choses avec les assos, et les assos qui sont un contre-pouvoir politique, là on est en train de les casser, les faire mourir, donc voilà, il n'y a même plus de contre-pouvoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà,
merci beaucoup.
Le monsieur derrière.
Je ne sais pas qui c'était.
Oui, c'était vous. Et si quelqu'un veut bien se dévouer pour faire circuler le micro, parce que je crois que jouer ce rôle, ce serait super.
Je l'amènerai au prochain.
Ah, ok.
Oui, je voulais juste, par passion et engagement associatif, moi, mon domaine, c'était les low-tech, les basses technologies. J'ai commencé à m'intéresser à l'économie et sous un mode indignation. Deux indignations. La première, c'est que quand on fait des animations et qu'on demande aux gens qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous, qu'est-ce qui a le plus de valeur, désormais on dit plus comme à la préhistoire mon sac de blé ou mon sac de charrue. On dit mon lien social, l'environnement, des choses comme ça. Et dans tous les milieux, en fait, c'est pas les milieux technocratiques. On fait des animations dans des lieux populaires, ou alors ça va être ma culture, bon. Et malheureusement, ces choses-là n'ont pas de propriétaires, donc n'ont pas de personne pour venir défendre leur prix ou leur soin. Et donc, c'est des coûts évitables pour une activité de production économique. C'est-à-dire qu'on peut baisser son prix de production en sacrifiant ce qui n'appartient à personne. Et par contre, on peut pas faire payer plus cher à un client pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, du coup, économiquement, la valeur se construit sur la minimisation des prix par le sacrifice du commun, qui fait que dans notre économie, jamais le commun n'a une valeur économique. À partir de là, on peut, et ça devient d'où ça? Ça devient du néolithique à l'époque où, forcément, comme c'était un coquillage ou une pièce d'or qui faisait le vecteur économique, bah, ce qui sortait de la poche de l'acheteur était forcément égal à ce qui est arrivé dans la poche du vendeur. Et donc, on fait un échange de biens privés. Et toute notre intelligence collective économique est fondée sur ces échanges microscopiques qui font l'intelligence collective, une intelligence collective de l'intérêt privé qui ne peut, à l'échelle systémique, que ne réaliser l'optimisation du bien privé aux dépens du commun. À partir du moment où j'ai réalisé ça dans les low-tech, j'ai envie d'introduire autre chose, et j'en profite qu'il y a un économiste ici pour en parler.
Soyez rapide.
C'est bientôt si fini. Et si on faisait une économie de la valeur collective? Une économie de la valeur générale qui aurait son support monétaire, donc sa petite phéromone qui permet de construire de l'intelligence collective autour de ça. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui disent les démarches de triple compatibilité, on va essayer d'équilibrer la valeur sociale et environnementale avec la valeur économique, et c'est un conflit entre les deux. Pourquoi on n'essayerait pas de créer une valeur économique qui représente les valeurs sociales et environnementales? Et à partir de ce moment-là, on peut aligner tous les intérêts privés sur l'intérêt général. On pourra en reparler, mais je pense que c'est un truc dont on ne parle pas assez, c'est comment on est piégé par les outils économiques plus que par la volonté des gens qui font ce qu'ils peuvent et qui sont assez conscients écologiquement.
Merci beaucoup. Il y avait des questions. On fera d'autres.
Oui, merci pour toutes ces explications très complètes, mais ce qui me frappe toujours dans ces débats, dans ce débat qui est effectivement essentiel, c'est qu'il y a quand même un des paramètres qui n'est jamais présent, c'est la population. J'ai beaucoup de cheveux blancs, comme beaucoup de gens ici, mais moi, quand je suis né, il y avait 2,7 milliards d'êtres humains sur cette Terre. Aujourd'hui, il y en a 8,1, trois fois plus. Alors, je connais tous les discours sur les inégalités nord-sud, à l'intérieur des pays, etc. Je partage tout ce qui a pu être dit là-dessus. Mais ça a quand même un certain lien avec la pression qu'on exerce sur l'environnement et les limites planétaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas que... Alors je sais que c'est en termes de politique publique, c'est un des sujets les plus compliqués à aborder, ça suscite tout de suite plein de débats, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'occuper davantage de savoir comment est-ce qu'on peut bien vivre dans une société où la population décroît? Et est-ce que ce n'est pas une des questions centrales qui peut nous permettre de résoudre la question qui est posée ici, à savoir ne pas avoir à trop serrer la ceinture pour ne pas dépasser les limites planétaires?
Merci pour cette question qui est souvent un angle mort du débat et qui est un brin iconoclaste. On va prendre encore trois questions dans cette travée.
Une question très très simple. Deux d'entre vous ont évoqué le 1% mondial qui consomme 66% de la 1%, ça fait en gros 80 millions d'habitants. Quel est le pourcentage des habitants de la France qui font partie de ce 1%? Et je pourrais même demander quel est le pourcentage des gens de cette amphi qui font partie de ces 1%.
Merci. Ah, voilà.
Une question à l'économiste. Sensible, si j'ai bien compris, à la question des limites planétaires. Quelles sont les recherches ou les travaux qui existent aujourd'hui sur la question du rationnement et, par exemple, de la carte carbone individuelle, etc. Est-ce que ça, c'est des champs de réflexion, de travaux qui paraissent crédibles aux économistes sensibles à la question des limites planétaires?
Question du compte carbone qui est aussi dans le débat politique avec le débat sur le rationnement des billets d'avion, qu'avait posé Delphine Bateau. Oui, monsieur.
Moi, j'ai peut-être donc la dernière question sur si on mettait de côté les 1% les plus riches qui sont les victimes un peu faciles en ce moment du débat, disons qu'on interdit les riches, les 1%. On leur confisque tous leurs biens, ils n'ont plus rien. On n'est pas obligé de les tuer tout de suite, on peut juste leur confisquer tous leurs biens. Ensuite, je pense qu'on arrive sur la moitié, enfin les 49% les plus riches du monde, dans lesquels, pour le coup, je pense qu'il y a à peu près toute la salle, et une grande, grande partie de la population française, y compris dans les quartiers populaires. En fait, là, on arrive à un constat qui est que même cette partie de la moitié la plus riche de la planète va devoir baisser ses niveaux de consommation. Après, c'est peut-être pas des niveaux de vie, c'est peut-être que des niveaux de consommation, parce que on consomme quand même plus que deux fois trop sur toutes les limites planétaires. Donc même en supprimant les riches, on n'a encore pas réglé le problème. Et ma question derrière pour atterrir, c'était qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour les collectivités qui essayent le do-not, là, Grenoble et Bruxelles notamment, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre avec ces notions de plancher-plafond? Est-ce que les deux collectivités ont réussi à définir des seuils? Et est-ce qu'on arrive à vendre ça à la population ou est-ce qu'on constate que finalement on déclare la guerre à 80% des Français et que la réponse c'est on veut pas de l'écologie punitive?
Merci beaucoup. Pour ceux qui sont frustrés, on fera un deuxième tour après, je crois qu'on aura largement le temps. Préparez-vous vos questions pendant ce temps. Et qui veut intervenir? Peut-être déjà sur la question du donut et de la mise en œuvre.
Merci pour toutes les questions. Donc, pour répondre déjà à la dernière question sur un peu ce qui se passe à Grenoble et à Bruxelles sur ce plancher et ce plafond. Alors oui, effectivement, donc les deux collectivités ont calculé des seuils pour les deux limites. Donc après, il faut savoir que pour l'instant, donc à Bruxelles, il y a eu une forme de démarche participative qui s'est fait avec les associations pour définir le plancher social et donc qu'est-ce qu'on considère comme un bon accès à l'éducation, comme un bon accès à la santé, etc. Et c'est d'ailleurs un point qui avait surpris le cabinet et l'élu, parce que notamment le premier portrait d'honnête qui avait été fait sur l'éducation, la région bruxelloise était assez mal notée. Alors que si on prend des critères mondiaux, il y a un super taux d'alphabétisation, il y a un accès des enfants à l'école. Et en fait, les associations, elles, ce qu'elles avaient choisi, c'était un accès à l'éducation tout au long de la vie. Et du coup, bah là, on n'est plus du tout dans les mêmes idées de qu'est-ce que c'est un juste accès à l'éducation. On était sur un critère beaucoup plus ambitieux que les normes internationales. Donc voilà, ils ont défini un peu tout ça. Et pareillement, au niveau du plafond environnemental, ils ont essayé de territorialiser un peu des limites planétaires. Après, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'est-ce qu'ils choisissent comme seuil ou non, mais c'est aussi qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a choisi ça. C'est quoi la traduction politique de ce seuil? Et ça, c'est ce que j'ai un peu essayé de présenter, c'est que pour l'instant, c'est une traduction qui est compliquée on n'est pas dans une situation où on a un donut comme moniteur un peu d'une politique publique. On est encore loin de ça, mais aussi parce que c'est vraiment à contre-courant de la manière dont on fait de la politique publique aujourd'hui. En France, on a quand même la vision du maire bâtisseur avec l'idée de faire des grands projets, etc. Et après, ce que je trouve intéressant quand même avec cette idée de plafond environnemental et de plancher social, c'est que ça revient avec la première remarque, c'est qu'en fait, la cible, quand on parle des 1%, 66%, c'est pas les 66% les plus pauvres. Et du coup, dans le donut, le plafond environnemental, on pourrait aussi le penser comme plafond social, c'est-à-dire un niveau qui cible les consommations, notamment des plus riches, qui ne devraient pas dépasser ce plafond. Parce qu'en fait, pourquoi on l'explose ? C'est en partie du fait de ce 1%. Et le plancher social, c'est un autre défi que se donnent les politiques publiques. C'est en fait, effectivement, en France aujourd'hui, en Belgique aujourd'hui, on a des habitants et habitantes qui sont en dessous de seuil de ce que ces collectivités définissent comme une vie digne. Et ça, c'est un vrai sujet à aborder, de comment on garantit un accès à l'éducation, à la santé, à la représentation politique. Et bien sûr, ça, c'est pas que les pouvoirs publics qui le font. Il y a un réseau associatif en France qui est très riche, qui est certes sous attaque, mais qu'il faut vraiment défendre comme contre-pouvoir central, au même titre que les médias, etc. Je vais laisser après, pour les autres questions, répondre les autres intervenants, intervenantes.
Guillaume Gontaud, vous voulez répondre peut-être sur l'interpellation, on subit.
Oui, bien sûr. Enfin, après, il y avait beaucoup d'interpellations, mais sur déjà sur la question des 1%, 66%, la question, c'est pas de dire on supprime les riches et puis le problème est réglé. Bon, déjà, ça serait pas forcément facile. Je pense que c'est absolument pas ça. Par contre, quand même, de se poser quand même la question des inégalités, je pense que moi, ça me paraît quand même indispensable. C'est-à-dire de se dire quand même que oui, il y a une petite partie, alors que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, qui effectivement ont un niveau de vie, un moyen de vie qui a un impact énorme sur justement les limites planétaires. Et qu'en même temps, on a une population, et qui est pour le coup très majoritaire, qui, elle, subit très clairement, et beaucoup plus que eux, l'impact justement du dépassement de ces limites planétaires. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est important à voir dans la donnée. Après, évidemment, on réglera pas le problème que là-dessus. C'est pour ça que justement, sur la théorie du donut, il y a un plancher, justement un plancher social, et qu'il y a les limites planétaires, et que c'est entre justement ces deux, qu'on doit fonctionner. Après. Sur les autres interpellations, moi je suis assez d'accord, même très d'accord sur ce qui a été dit sur la première intervention, qui était un peu un coup de gueule, on va dire, parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué en fait dans la manière d'expliquer les choses et de s'exprimer, sur effectivement d'avoir toujours l'impression d'être soit donneur de leçons en disant c'est de votre faute, c'est de votre faute, vous avez qu'à pas manger du Nutella, vous avez qu'à pas acheter de grosses voitures, vous avez qu'à pas vous déplacer de cette manière-là, vous avez qu'à pas partir en vacances. Loin. En réalité, les choses ne se passent pas comme ça. C'est effectivement pas une volonté. Enfin, je veux dire, la question du Nutella, le fait que ce produit-là soit pas présent partout, soit connu par tout le monde, soit voulu par tout le monde aussi, puisqu'il y a la question aussi des enfants qui souhaitent avoir du Nutella, etc. Et puis que si on en a pas, on a l'impression qu'on est déclassé, on a l'impression que du coup, on n'a pas justement accès à ces produits-là. Ça doit nous interpeller, en tout cas, dans la manière aussi de construction de notre société. Mais la question des voitures, et c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord sur la question économique, vous avez pas dit ça, mais d'agir uniquement sur la question du prix, évidemment, je pense que sur la question, pour ça qu'il y a des taxes, etc., mais une voiture, c'est horriblement cher. Ce que je disais tout à l'heure, un SUV, c'est horriblement cher. Enfin, je veux dire, c'est une partie. Tout le monde, d'ailleurs, ne peut pas se payer une voiture. On a dans les territoires ruraux beaucoup de gens qui n'ont pas justement accès à la voiture. Le coût d'une voiture dans un territoire, pas que dans un territoire rural, mais en moyenne, c'est 6 000 euros par an. C'est quelque chose d'énorme, en fait. Donc le coût, il est déjà là. Sauf que c'est évidemment un coût contraint. C'est qu'il n'y a pas d'autres possibilités, pas d'autres solutions. On a 10 millions de personnes qui n'ont pas accès au transport en commun, donc qui doivent se débrouiller autrement, donc soit ne pas se déplacer, soit effectivement mettre toutes leurs économies ou ce qu'ils ont en tout cas dans une voiture, mais c'est de la contrainte. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas choisi. Et donc cette question-là, je pense qu'elle est vraiment primordiale sur le fait de moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir dans comment on aborde cette question au niveau politique. Hier, j'étais au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand et on discutait forcément avec des agriculteurs, forcément de la question de la loi Duplon, des pesticides, etc. Et en fait, c'était à un moment donné, j'avais une dame qui était très virulente. En fait, elle avait l'impression dans ce qu'on lui disait, en fait, de dire comment on peut changer de modèle, comment justement on peut faire en sorte que vous utilisiez juste moins de pesticides pour qu'il y ait moins d'impact sur l'environnement, etc., etc. Elle avait l'impression, en fait, qu'on voulait la renvoyer à l'époque d'avant où il n'y avait plus de mécanisation, du coup, comme il n'y avait pas de produits, il y avait moins de production, etc., etc. Et cette impression, en fait, de déclassement dans ce qu'on pourrait proposer, moi, je le comprends, en fait. Je comprends, c'est aussi des gens, je veux dire, leur formation, le modèle de société. Je veux dire, si on est passé, par exemple, sur ce système agricole en moins de 40 ans, c'est pas juste de la volonté de gens, c'est un choix politique, c'est des accompagnements politiques. On a mis ça... ça a été organisé. Je dirais... Heureusement, à un moment donné, hein, c'était pour nourrir la population, etc. Et on l'a fait très rapidement, cette mécanisation, cette bascule-là. La vraie question aujourd'hui, c'est comment on construit en fait un autre schéma, un autre modèle. On peut l'appeler comme on veut. Et ça, la puissance publique, évidemment, elle a son importance. Mais après, là-dessus, ça fera pas tout, parce que ça, on pourrait le décliner sur la question agricole, sur la question des mobilités, sur la question de l'alimentation, etc. Ça fera pas tout, parce que je suis aussi d'accord, c'est que pour changer des habitudes, c'est pour ça que je parlais de la question de la proximité, il y a la question de comment justement on a ce travail citoyen, en fait. Comment on a cette concertation, cette co-construction, cette réciprocité aussi dans le travail qu'on peut mettre en place avec les citoyens, avec ce qui se fait aussi, avec la connaissance d'un territoire. C'est pour ça que l'échelon local est particulièrement important, de se rendre compte qu'à tel endroit, il y a des choses plutôt intéressantes. Moi, je le vois par exemple sur les questions de mobilité, il y a plein d'innovations, plein de choses très... très simple en fait, qui ne coûte pas forcément cher, qui demande juste en fait à accompagner ce changement, parce que derrière c'est un changement d'habitude, et ce changement d'habitude, il s'accompagne. Et ce que je disais par exemple sur les voyages ou sur les vacances, c'est vrai que ça fait tout de suite réagir. On dit vous voudrez plus que on parte en vacances, etc., à l'autre bout du monde. Non, moi j'ai jamais dit ça, et moi je suis déjà parti à l'autre bout du monde, et puis j'ai plutôt aimé ça. Je dis juste que parfois, et qu'il y a ce questionnement à avoir, j'ai pu partir à l'autre bout du monde, puis parfois je connais pas juste ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne en face de chez moi, quoi. Ça c'est quelque chose aussi qu'il faut peut-être sur lequel on réfléchisse. Pourquoi justement j'ai envie d'aller découvrir des choses très lointaines avec des coûts très importants, alors que je peux peut-être aussi ça interroge sur notre fonctionnement, sur notre manière de vivre. Et là où je suis d'accord, c'est que c'est compliqué et c'est pour ça que moi je crois énormément à la question citoyenne, à la question du travail qu'on peut faire en commun. Vous avez parlé de la convention citoyenne. Je trouve que c'est un très très bon exemple. On va pas parler de la suite de la convention citoyenne, mais par contre, quand la convention citoyenne a été mise en place, qu'on a dit qu'on allait prendre des gens tirés au sort, mais dans un panel représentatif des Françaises et des Français, jamais je me serais dit ils vont sortir ce type de proposition. C'était pour moi totalement impossible, quoi. Je me suis dit on va avoir un truc complètement parce qu'en fait les gens quand on leur demande, en fait on leur passe une consigne, qu'on réfléchit ensemble, qu'ils ont l'information, l'accompagnement, qu'ils ont des données scientifiques, comme tout le monde, on réfléchit, on essaie de trouver des solutions, puis on se dit c'est peut-être là qu'il y a un passage. Et ça c'est important, parce que du coup c'est une appréciation, et du coup on peut avancer. Et après ça veut dire il y a des textes de loi, il faut encadrer tout ça, mais c'est sûr que si on ne part pas en fait d'en bas, en fait, et si on part pas justement des problématiques qui peuvent se passer au niveau local, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas.
Catherine Larrère, vous voulez réagir, répondre?
Oui, moi aussi, je vais intervenir dans le même sens que mon voisin, c'est-à-dire que le coup de gueule de la première intervenante me paraît tout à fait juste, parce que finalement, on a beaucoup raisonné comme s'il y avait, disons, deux types d'acteurs: l'État, les agents économiques, qui agissent, et donc que c'était le rapport qu'il y avait avec, entre ce qu'on peut faire de l'économie quand on sait ce qui se passe et ce que peut faire l'État. Il y a été beaucoup question de politique publique. Mais comme si c'était, il y avait toujours des destinataires individuels. Comme vous l'avez très bien dit, il y a des associations, il y a des collectifs qui se constituent. Donc, ce n'est pas uniquement la question de est-ce qu'on va forcer ou inciter des individus, mais aller voir ce qui se passe. C'est-à-dire, la Convention citoyenne, c'était effectivement tout à fait important de voir que des gens qui sont ni pour ni contre, qui n'ont pas d'idées préconçues, ils sont bien informés, ils prennent ils font des propositions qui sont parfaitement sensées. Mais il y a des choses qui se font. Et ça, il n'en était pas du tout question, parce que quand on a... on n'a pas ça avec des statistiques. Hein. On a ça en allant voir les gens, en travaillant avec eux, en les aidant quand ils font quelque chose. Donc je pense qu'il y a toute cette dimension collectif, sans laquelle on comprend pas ce qui se passe. Et j'aurais juste ajouté une chose, c'est que quand on sait beaucoup finalement, la question qui était posée, c'est comment ça on peut changer de modèle, de type de consommation, de type de production. Il y a une façon de répondre qui est de dire surtout si on reste uniquement à l'analyse des réactions individuelles, le problème du Nutella, puisque j'ai eu le malheur d'introduire ça, c'est qu'on est addict. Et que donc, il y a des formes d'addiction à la consommation et que c'est pas en culpabilisant les gens individuellement qu'on y arrivera. C'est au niveau de l'action collective. Et d'une action collective qui n'est pas forcément incitée d'en haut, qui part de ce qui se fait en bas.
Alors, on n'a pas les mêmes mots, mais on tourne un peu autour des mêmes idées. Moi, je vous ai dit que les politiques publiques étaient un échec, c'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je pense sincèrement que la façon dont on conçoit les politiques publiques, dans les endroits où on les conçoit, l'État, les administrations, les lieux de décision, mais c'est aussi le Parlement, mais c'est aussi au niveau local. Les politiques publiques, c'est pas un gros mot, c'est quand même justement essayer de mettre en œuvre ces changements collectifs et pas simplement reposer sur les individualités. Donc, quand on parle du donut, on parle de politique publique. Quand on parle d'autonomie énergétique locale, on parle de politique publique. Voilà, il y a toute une palette. Moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que on a négligé la complexité de mettre en place les politiques publiques de la transition, plus que de la transition, de la transformation des sociétés, et que aujourd'hui on ne sait pas faire. Alors oui, vous avez l'intuition qu'il faut co-construire, sans doute, sauf qu'on ne sait pas co-construire. Vous dites la convention citoyenne, c'était un bel exemple, ça allait fonctionner. Oui, il y a des choses intéressantes. Maintenant, est-ce que c'était suffisant? Est-ce que c'était suffisamment concret? Est-ce que c'était opérationnel? Est-ce que ça avait pris en compte toutes les dimensions et toutes les complexités qu'il y a dans l'élaboration d'une transformation à la société? Non, pas du tout. Loin de là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la poubelle, mais ça veut dire qu'il faut un peu d'humilité et dire, alors il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui font des choses intéressantes. Donc on peut partir de ça. Mais ça ne suffira pas. Il faudra aller au-delà des choses intéressantes que des gens font. Parce qu'avec tout le respect qu'on doit avoir pour eux, c'est utile, mais ça n'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire que pour y arriver, il va falloir beaucoup plus que ça. Et on a du mal à prendre en compte cette complexité. Voilà. Et c'est vraiment de la complexité. C'est pas que je dis pas c'est compliqué, je dis pas c'est des statistiques, je dis pas il faut quantifier tout ça. Mais par contre, il faut accepter que les outils dont on dispose aujourd'hui, qui ont été développés pour un certain nombre d'objectifs, en fait, on pensait qu'ils pouvaient être adaptés. Il y a des gens qui ont pensé que ça pouvait être adapté, qu'il suffisait de les dérouler. Si on faisait l'examen post-mortem de toutes les politiques environnementales qui ont échoué, on apprendrait beaucoup de choses. on n'aurait pas trouvé la solution. Mais déjà, on apprendrait beaucoup de choses. Et oui, il y a des choses comme co-construction, comme initiative individuelle, comme responsabilité locale qui apparaîtraient. Oui, les conventions citoyennes, oui. Donc tout ça, ça apparaîtrait. Je pense que ça ne suffirait pas. Et qu'il faut encore plus que ça. Et donc il y a encore plus de travail que ça. Mais oui, il faut y aller. On n'a pas ultra le choix. Après, attention à une chose, hein, c'est, et ça c'est aussi une autre expérience que je peux vous partager, c'est la question du climat, la question du CO2, elle est très simple. On sait mettre un prix, on sait etc. En fait, elle est très simple. Donc on sait faire les politiques publiques. Déjà, on arrive à échouer dans ces politiques publiques-là, mais on sait les faire. Mais le résultat de ça, c'est qu'on les fait et on dit le reste, ça attendra. On va déjà apprendre à faire ça correctement. Une fois qu'on aura fait ça correctement, le climat, on fera la biodiversité. Alors, en même temps, ça facilite aussi un peu les choses, hein, parce que faire le climat sans la biodiversité, bah, c'est plus simple. C'est sûr. Parce qu'on se pose un peu moins de questions. Donc, voilà. Une petite réponse à Guillaume sur la population. Bon, je ne sais pas où tu veux aller, jusqu'où dans la population, parce que c'est un sujet qui est quand même glissant. C'est un peu le défi du siècle, hein, c'est de faire vivre 8,1 milliards d'habitants sur la planète dans des conditions décentes, c'est le donut, et en respectant les limites planétaires, c'est la partie extérieure du donut. Donc oui, c'est le défi. Est-ce qu'on peut bouger ce 8 milliards? Vaste question. Alors, si on ramène ce 8 milliards à 1 milliard, le problème est plus simple. Mais est-ce qu'on a envie d'aller dans toutes les solutions qui nous amènent, qu'il faut passer de 8 à 1 milliard? Non. Non, non. Alors, après, est-ce qu'il existe des politiques qui changent les choses? Sans doute. Je veux dire, par exemple, appliquer une politique qui consiste à dire les gens qui font des enfants doivent le choisir librement et avec leur consentement. Rien que de dire ça, ça peut suffire à réduire l'augmentation de la population. Maintenant, il ne faut pas rêver, ça ne fera pas passer un milliard. Donc, le libre choix, ça peut faire descendre la population, mais ça ne fera pas passer un milliard. Et si j'ai encore une seconde, sur la low-tech et sur... là aussi, je pense que vos mots sont bien mieux que les miens, mais quand je parle de prix du carbone et de la difficulté à mettre en place le prix du carbone dans une économie de politique publique, en fait, c'est précisément quand on veut réguler une économie de marché pour faire apparaître des valeurs sociales, le prix du carbone, c'est pas un prix de marché, qu'on se heurte à des difficultés phénoménales. Et donc, voilà. Mais c'est exactement cette idée d'une économie de la valeur générale. C'est-à-dire, c'est de comment on construit une société avancée, parce que c'est ça, qui n'est plus celle du néolithique où chacun a sa valeur dans sa poche et où notre valeur à nous, elle est un peu dans notre poche et beaucoup dans notre collectif. Donc comment on fait ça? Comment on fait pour construire le collectif autour de ça? Voilà, c'est aussi ça l'échec des politiques publiques. C'est d'autres mots, ils sont moins jolis que les vôtres, mais je pense que c'est la même idée.
Si je peux me permettre juste de rajouter une idée dont on n'a pas trop parlé ici, c'est, enfin, on a dit voilà, on ne parle pas de l'après-convention citoyenne ou c'est l'échec des politiques publiques. En fait, on a un peu effacé aussi les luttes politiques et les rapports de force qui ont à l'œuvre. Quand je parlais de Bruxelles, par exemple, si le donut il n'est pas présent au final dans le texte, c'est le résultat d'une lutte politique entre des partis politiques différents, mais aussi les intérêts de qui ils choisissent de représenter. Et donc typiquement les liens entre les fédérations d'entreprises bruxelloises et ce parti libéral dont je parlais, c'est pas sans lien avec le fait que ça a été refusé dans le texte avec la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des super propositions, certes, elles ne sont pas mises en place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un intérêt politique à le mettre en place. Et donc, il y a la perte de cette lutte politique-là. Et c'est le cas, on parlait de la voiture. La voiture, quand elle arrive au début, on parle d'elle comme de la tueuse d'enfants. Ce n'est pas un truc super. Et maintenant, on n'imagine même pas s'en défaire. Mais aussi parce qu'il y a eu des intérêts économiques et politiques à pousser la voiture, à pousser les autoroutes, etc. Et donc, c'est quand même un peu central de rappeler qu'il n'y a pas juste les politiques publiques et la façon dont elles sont faites qui est mal faite, mais il y a aussi tout un jeu d'acteurs à prendre en compte qui, malheureusement, est encore plus aujourd'hui qu'en 2019, quand on était dans la suite des marches climat et où là, il y avait un rapport de force favorable aux forces plutôt écologistes. Là, on est plutôt dans un moment inverse et donc il faut aussi garder en tête cet élément-là.
Merci beaucoup. Il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps, mais on peut prendre peut-être trois, quatre questions, et après ce sera la fin. Monsieur, oui.
Par contre, vraiment non, hyper court, s'il vous plaît.
Et là, on est en très bref.
Mais vraiment court, pour qu'il puisse y en avoir.
Voilà.
Okay, j'essaie d'être
et après,
court.
Ce sera en bas, ici. Voilà.
Merci. En fait, juste pour dire, c'est un commentaire, mais très, très court. Je suis économiste aussi, et juste pour dire que les économistes ne sont pas tout d'accord sur ce qu'on a dit là, avec tout mon respect. En fait, moi, je suis économiste écologique, et du coup, comme Kate Raworth, qui a créé le donut, je trouve que, en fait, on ne peut pas mettre... il y a des choses qui n'ont pas... On ne peut pas mettre les prix, on ne doit pas mettre les prix surtout. On est quand même dans les limites planétaires qui sont rigides. On ne peut pas juste mettre des prix. On ne peut pas avoir une économie qui peut croître. On ne peut pas avoir une croissance économique infinie. Et énormément de personnes qui s'intéressent à ça, même au sein de l'ONU, à l'Union européenne. On a plein de choses à faire, mais il y a beaucoup de recherches très, très intéressantes sur ça. Il y a même à l'Université de Lausanne, il y en a qui ont montré qu'on peut les besoins de tout le monde, même 8 milliards de personnes, peuvent être bien respectés avec beaucoup moins de consommation d'énergie. Mais il faut surtout laisser tomber cette idée de la croissance éternelle du PIB. Merci.
Je me demandais quand est-ce qu'on parlerait de croissance. Mais voilà, c'est fait. Monsieur en bas, s'il vous plaît, en bas, oui, voilà, sur votre gauche, madame. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Plus haut. Non, c'était monsieur là, voilà. Excusez-moi, qui levait le doigt depuis longtemps. Voilà. Excusez-moi.
Oui, c'est ça, très court. Une petite intervention un peu provocante, pardon. Je trouve qu'en France, on est quand même des champions pour pouvoir alimenter des discussions très intéressantes, très larges, très théoriques, mais un peu déconnectées du contexte dans lequel nous sommes. Ce que je veux dire par là, par exemple, quand on dit peut-on maintenir les niveaux de vie et tenir compte des limites planétaires, mais on est en train de les exploser, les limites planétaires. Donc en fait, la question qui se pose pour nous et nos concitoyens, c'est comment on va gérer ensemble, de la façon la plus juste, l'impact sur nos modes de vie, sur notre niveau de vie, des chocs écologiques qui sont déjà là, oui. Quant à se demander, peut-on maintenir les niveaux de vie, comme si vous voyez, il y avait quelqu'un qui pouvait prendre la décision, non, alors on ne va pas les maintenir, on va décider de les baisser. Oui. En fait, les Français pourraient nous dire, mais en fait, ils sont en train de descendre tout seuls. Oui, ouais. Donc, je ne suis pas en train de dire que la question n'est pas intéressante, mais il faut qu'on la prenne pour qu'elle soit, appropriable par les acteurs de terrain, au regard de la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et voilà. Voilà. Puis après une dernière et ce sera fini.
Donc on a parlé là essentiellement, oui. On a parlé de la production marchande, des biens marchands, mais il y a tout un pan de l'économie qui n'est pas marchande et qui est produit en fait par les personnes, sur les citoyens, sur leur temps libre. C'est un bien important qu'on a. On nous reproche d'ailleurs, les Français, d'être des paresseux, alors que la production domestique des habitants, c'est les trois quarts à la totalité de la production marchande. Donc c'est quand même quelque chose qui... On ne parle plus plus de temps libre, de l'accroître. Alors c'est vrai qu'en France on est très bien doté, mais ça sert à produire, ça sert peut-être aussi à faire d'autres choix en termes de consommation. Était évoquée la nature des consommations. Pour si on produit des services qui répondent à des besoins comme la garde d'enfants ou la prise en charge des personnes âgées dépendantes ou autres handicapées, ça consomme beaucoup moins de CO2 que d'acheter des voitures électriques en Chine.
Merci. Et une dernière question, et malheureusement, je crois qu'on va être obligé de voilà. Depuis le début. Pardon. Voilà.
Oui, voilà. Il n'a pas été abordé une étude qui dit que à partir d'un certain niveau de revenus, on n'augmente pas le bonheur, voire même c'est l'inverse. Et donc, je ne sais plus, en Gironde, je crois qu'il y a un territoire qui a mis en place un nouveau paramètre de calcul de la progression du territoire qui ne se mesure plus en richesse, mais en bonheur local brut, pour lesquels ils ont mis en place vraiment des éléments de mesure de ce bonheur local brut qui permet de savoir si le territoire progresse ou non. Et je terminerai en disant que culturellement, il y a des comportements qui relèvent de la délinquance climatique. Je crois très fort aux changements culturels qui vont faire que certains comportements vont devenir complètement has-been. Merci.
Merci beaucoup. Écoutez, je crois que je vais vous laisser peut-être répondre à ces questions en essayant de conclure aussi. Je vous laisse chacun deux ou trois minutes maximum.
Oui, la dernière intervention, bon, on en parlait beaucoup à un moment du Bhoutang, hein, d'un État d'Asie du Sud-Est où effectivement on mesurait le bonheur brut. Moi, je vous dirais la même chose. Je crois que ce que j'ai dit depuis le début, c'est le problème, c'est pas de mesurer, c'est pas uniquement, mais il faut des instruments de mesure. Mais le problème, c'est d'arriver à apprécier la complexité des choses sans avoir besoin de chercher des instruments de mesure. C'est ça qui me paraît important. Et à la personne qui disait, on discute beaucoup, mais on regarde pas ce qui se passe. Moi, j'ai envie de répondre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une sorte d'effondrement des politiques publiques parce que les responsables publics les appliquent de moins en moins ou cèdent. Hein, on l'a vu sur les phytosanitaires, sur les ZFE, sur les zones sans artificiel. Oui. De faible émission sur l'artificialisation nette. Et s'il y a quelque part, et je voudrais pour moi terminer là-dessus, s'il y a quelque part de l'espoir, c'est la réaction, alors on peut appeler ça la société civile, on peut appeler ça les citoyens, qui ne lâche pas. Hein, la pétition après la loi du plomb, ça a montré que ce qu'on appelle le backlash écologique, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est à un certain niveau politique, c'est pas ailleurs. Et donc moi je crois, s'il y a le problème, c'est pas seulement d'inventer des politiques publiques, c'est de les appliquer. Et je pense qu'on est tous là au moins pour obliger les responsables à les appliquer et pour faire ce qu'on pense bon de faire.
Je vais une réponse sur la question de l'adaptation. Enfin, en gros, de se poser la question de savoir si, je ne sais pas si c'est déjà trop tard, mais en tout cas, de dire de toute façon, on a déjà dépassé, on l'a dit au début, ces limites planétaires. Et donc déjà, on a l'impact. Bon, réchauffement climatique, effectivement, qui est très concret sur les populations, alors que ce soit à l'échelle internationale, mais également à l'échelle nationale. Enfin, dire la question du réchauffement climatique, que ça soit les pics de chaleur et la canicule chez nous, ça nous interroge directement sur quelle politique publique à mettre en place pour s'adapter, tout simplement. Moi, je suis d'un territoire de montagne, plus de neige, plus de stations de ski. Qu'est-ce qu'on fait? Quel type d'économie? Comment on accompagne cette transition? Ça, c'est des choses qui sont déjà là. Donc ça, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est évidemment les deux, ce qui n'empêche pas d'ailleurs, et qui évidemment n'empêche pas d'agir justement sur la question de la diminution. Enfin, en tout cas, comment on ne va pas plus loin justement sur le dépassement de ces limites planétaires. Et souvent d'ailleurs, les deux sont liés, quoi. Parce que quand on répond à la question de l'adaptation, souvent en même temps aussi, ça nous permet d'agir sur des changements de pratique. Ce que je disais, l'exemple des stations de ski sur des changements d'imaginaire, et donc derrière aussi sur l'impact que ça peut avoir sur les limites planétaires. Donc c'est évidemment les deux, mais je suis d'accord sur le fait que sur la question de l'adaptation, vu en plus à la vitesse où tout ça va, on a évidemment intérêt de mettre des politiques publiques qui sont très fortes sur cette question-là. Après, je crois qu'il y avait une question sur le, enfin plutôt globalement, mais en tout cas sur la notion de temps libre. Enfin, et je pense que c'est évidemment important. Rien que la question du temps de travail, en tout cas, c'est quelque chose qui doit être au cœur, en tout cas, de nos réflexions. La question aussi du temps libre et la question, ce que vous disiez, en fait, des services par rapport à la production, mais ce qui est aussi la question, tout simplement, des rapports humains, des liens humains qu'on peut avoir par rapport au matériel et par rapport à, et donc sur la manière dont on peut vivre. Et ça pose la question des indicateurs, comme ça a été rappelé, en fait. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est qu'avoir la course au PIB le plus important, est-ce que en fait on vit mieux? Ben non, on s'aperçoit qu'on vit pas forcément mieux. Enfin, en tout cas, tout le monde ne vit pas forcément mieux, parce qu'il y en a qui vivent mieux, enfin mieux, en tout cas qui ont l'impression de vivre mieux. Mais la question de la qualité de vie, du bonheur de vie, enfin on l'appelle comme on veut, il est évidemment important. Et puis je pense aussi qu'il y a un aspect qu'on a peut-être pas abordé. Enfin, ça a été un peu dit dans les politiques publiques qui ont été mises en place, notamment sur la question de la piscine à Grenoble, et sur la capacité que doivent avoir maintenant les collectivités, les décideurs publics dans la période où on est, à la question du renoncement. Et le renoncement, c'est pas quelque chose qui est très, facile. Quand on est politique, à un moment donné, d'avoir la capacité de se dire, tel ou tel projet qui est mis en œuvre qui est réfléchi depuis 30, 40 ans, on a des très gros projets comme ça, à un moment donné, d'avoir la capacité de les regarder d'une autre manière et de se dire, peut-être que ce projet-là, il est plus adapté à notre fonctionnement, il est plus adapté à nos attentes, et donc de savoir se dire, stop, et renoncer, pour moi, c'est jamais ne rien faire, c'est jamais arrêter, et c'est plutôt une notion de montagnard. C'est plutôt dire quel autre chemin on prend, comment on contourne, comment on fait autre chose et comment. Et l'exemple de la piscine, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, ok, on renonce à cette piscine, mais pour proposer autre chose qui correspond justement à la fois aux attentes, aux nécessités et à la réponse aussi justement des limites planétaires. Donc cette question du renoncement, pour moi, elle est importante. Et puis peut-être terminer ce que vous avez parlé du ZAN, mais je trouve que c'est un exemple. Moi, j'aime bien les exemples concrets, mais je trouve que c'est un exemple, donc zéro artificialisation nette, qui là est très concret, en fait, à un moment de se dire, c'est le sol, c'est une ressource, la terre agricole, c'est une ressource. À un moment donné, comment on fait pour ne pas utiliser plus de sol, parce que sinon, on n'aura plus d'espace pour l'agriculture, on n'aura plus d'espace pour se nourrir. Là, je trouve que pour une fois, il y a eu une réponse politique. C'est la seule, d'ailleurs, ça revient au début, c'est la seule qui a été qui est arrivée au bout, je dirais, de la Convention citoyenne, qui était ambitieuse, de dire zéro artificialisation nette en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, on arrête de bouffer de la terre agricole, et ça veut dire que tout ce qu'on construit, on le construit sur des friches, c'est de la reconstruction, c'est de faire la ville sur la ville, c'est aussi l'équilibre des territoires et de réutiliser des espaces justement en zone rurale qui sont plus utilisés, ou en zone périurbaine, etc. Ça, c'est un objectif, moi je trouve, hyper intéressant de se dire, et c'est très rare dans la loi, de se dire on a cet objectif 2050 avec une revoyure en 2031, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut faire. Après, il y a la question de comment. Et ça, c'est pas évident. Et c'est là où on doit être à la fois fort, et c'est là où on retombe aussi sur la question des collectivités, sur la question citoyenne. C'est que maintenant qu'on a cet objectif, comment collectivement on se met en ordre de marche pour pouvoir y arriver. Et ça, moi, je trouve que c'est particulièrement intéressant. On voit bien que les débats sont compliqués, puisque des textes, des pressions pour revenir sur ces objectifs, on en a eu plus d'un. Mais moi, ce que je constate, globalement, tous les maires que je peux rencontrer et de petites communes, en fait, ils sont tous en train de travailler, de réfléchir à comment ils pourraient s'organiser pour atteindre ces objectifs, parce que tout simplement, ils ont compris, parce qu'ils les voient très concrètement. Ils voient très concrètement que si on continue comme ça, c'est l'impact de l'agriculture sur leur territoire, c'est l'impact aussi sur la question d'eau et donc de ressources naturelles qui sont directes. Donc, du coup, ils s'organisent. Et donc, après, la question que nous avons en tant que politique, c'est comment, justement, on accompagne juste ce mouvement qui se met en place, à la fois à travers une orientation politique qui est assez forte, et puis ensuite concrètement comment on l'accompagne sur les territoires, et évidemment en lien avec les citoyens et les citoyennes qui sont sur ces territoires.
Merci beaucoup Guillaume Gontard. Vous êtes Xavier, et puis
Bon, très rapidement, parce qu'il faut conclure, mais bon, déjà pour lever une ambiguïté, il ne s'agit pas de savoir si le revenu fait le bonheur ou si la production marchande est moins bien que la production marchande. La question, elle est de respecter les limites planétaires. La production non marchande, elle ne respecte pas a priori les limites planétaires. Ben, quand vous allez soigner quelqu'un et que vous prenez une voiture, ben, vous émettez du CO2. Par ailleurs, elle est quand même fortement complémentaire de la production marchande. Cette production non marchande. Donc, voilà, il ne s'agit pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est encore une fois, le seul objectif qu'on doit avoir, c'est respecter les limites planétaires. D'ailleurs, pour respecter les limites planétaires, moi je veux juste vous mettre un peu le doute dans la tête sur le fait qu'on n'a pas les politiques pour le faire. J'ai pas dit qu'il fallait mettre un prix sur tout. J'ai dit justement que les économistes qui pensent qu'en mettant un prix sur tout, tous les problèmes sont résolus, ils se trompent. Maintenant, il y a d'autres gens qui se trompent. C'est les gens qui disent ben, la bonne politique, c'est de changer le système. Pourquoi ils se trompent ? Ben, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire changer le système. Ça veut dire quoi, changer le système ? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est même pas un objet qu'on peut mettre sur la table et débattre. Donc, voilà, si on veut être sérieux par rapport à ce problème, il ne faut pas dire on veut changer le système, il faut dire qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être que ça va forcément changer le système, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Qu'est-ce qui est acceptable ? Qu'est-ce qui est efficace ? Qu'est-ce qui produit le résultat qu'on veut ? Donc voilà, et c'est là qu'il faut être sérieux. C'est pas... c'est là qu'on doit être concret et qu'on ne doit pas se noyer dans des discussions théoriques.
Merci Xavier et Clotilde.
Oui, donc pour essayer de conclure un peu tout ça. Je voulais juste rebondir sur deux points mais qui ont déjà été évoqués pour parler un peu de la mesure. Certes, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui se mesure, qu'est-ce qui se quantifie, etc. Mais sur les politiques écologiques, mesurer, c'est un réflexe. On va d'abord voir combien on émet avant de savoir combien on va pas émettre. On va d'abord avoir une vision hyper précise du trait de côte avant de mettre en place des politiques publiques contre la montée des eaux. C'est ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais dans les années 80-90. On a dépensé beaucoup d'argent pour avoir des satellites qui nous donnent une vision précise du trait de côte. Mais après, derrière, c'est qu'est-ce qui est mis en place, quelles politiques publiques sont mises en place. Quand on parle du Donut, c'est très joli de faire un portrait de territoire et d'avoir une idée de où on en est. Si on s'arrête là, ben on a juste un joli schéma, ce qui est pas mal, une vision du monde qui est différente de la courbe linéaire du PIB, mais on n'a pas actionné quelque chose véritablement. Et donc, voilà, c'est un peu sortir de la volonté de toujours tout mesurer et aller voir des choses effectivement qui se mesurent moins et aussi oser des formes d'expérimentation, parce que comme on l'a dit, pour l'instant, il n'existe pas de politique publique de sociétés qui rentrent dans les limites planétaires, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, donc osons aussi essayer des choses qui n'ont pas encore été essayées, osons renoncer plutôt qu'essayer de faire mieux parfois. Voilà, je vais finir là-dessus.
Merci Clotilde. Moi, si je peux rajouter un petit mot, d'abord merci à nos invités, merci à vous pour votre participation. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce débat, c'est qu'il je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau. Si on l'avait tenu il y a quelques années, ce débat, on aurait tourné autour des questions sobriété volontaire individuelle collective versus technologie par rapport aux limites de la planète. On serait un peu tombé dans les... C'est tous les débats qu'on avait eus avec Pierre Rabhi, Serge Latouche, Bruno Latour et j'en passe. Et là, j'ai l'impression que cette question, elle est complètement dépassée parce que je crois que c'est plus tellement la question sobriété ou pas, on sait que c'est nécessaire, technique ou pas, on sait que c'est nécessaire. C'est la question du politique et dans toutes vos interventions, que ce soit les vôtres ou dans vos questions, vos interventions, c'est vraiment la question de la démocratie, de l'appropriation de la transformation. Et je trouve qu'il y a vraiment un changement intellectuel qui s'est opéré, quoi, par rapport au débat qu'on avait il y a quelques années sur cette question, qui n'est finalement plus une question. Quand on m'a proposé d'animer sur cette question, je me suis dit, oh là là, ça va être barbant, c'est un vieux sujet. En fait, il était complètement mis à jour et dépassé par la vraie question que vous avez tous posée, qui est celle de la démocratie et de l'appropriation. Voilà. Merci.